Bon midi tout le monde et bienvenue à l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1, le rendez-vous du midi. Évidemment, on va faire le caucus avec Antonine Iaccarini dans quelques instants. Vous interagissez au 418-971-1021. Vous pouvez nous écouter également via la web radio au blvd.fm. Les meilleurs moments vont se retrouver à la suite de l'émission. Et également, n'oubliez pas de télécharger notre application sur App Store ou Google Play Store. C'est BLVD 102.1. On est aussi sur twitch.tv/BLVD/FM. Donc, on a eu une soirée extraordinaire vendredi. On va revenir là-dessus avec Antonine Iaccarini également. Gala de lutte de la NSPW, organisation de main maître de mon chum Steve Boutet, qui est tout simplement exceptionnel avec sa fédération de lutte. Je lève mon chapeau à 100%, même à 200%. Yannick Marceau, mon collègue du matin, l'animateur de Marceau le matin, qui se donne corps et âme sur le ring, mais surtout dans l'organisation de cette soirée-là. Yannick est quelqu'un qui a les valeurs à la bonne place. Il a justement bénéficié des paniers de Noël quand il était plus jeune dans sa famille. Il redonne à sa communauté de façon phénoménale. Ça va être près de 30 000 $ qu'on va avoir amassé pour la bouchée généreuse, parce que sur le 27 000 annoncé vendredi, il reste encore justement des montants accumulés. Alors, c'est tout simplement exceptionnel. Sur blvd.fm, justement, vous pouvez retrouver l'entrevue qu'on a faite ce matin avec Marie-Pierre Gravel. Et la bouchée généreuse, là, vous vous présentez là. Ils cherchent des bénévoles pour leur distribution à chaque jeudi pour la distribution de Noël qui sera le 24 décembre. Si vous voulez venir le faire avec moi, moi, je m'en vais là tout de suite quand je vais terminer l'émission à 10h du matin pour aller faire du bénévolat avec ma conjointe Val, avec nos enfants. Donc, venez en grand nombre. Et ils sont également, à l'heure actuelle, en train d'amasser des dindes pour le réveillon de Noël. Hey, c'est pas rien, hein? On a un objectif de 2000 dindes. C'est l'enfer comment...
Ça fait de la dinde.
C'est l'enfer comment les gens ont des besoins alimentaires à l'approche de cette période des fêtes. Fait que, fort simple comme geste, vous allez dans votre épicerie de quartier, vous achetez une dinde, vous débarquez à Boucher Généreuse du lundi au vendredi entre 8 à 4, il y a quelqu'un dans l'entrepôt, vous lui donnez la dinde, dites-leur, « Hey, c'est Jeff Fortin à Boulevard qui me dit de venir vous porter une dinde, c'est Yannick Marceau, c'est Denis Gravel, voilà votre dinde, il faut remplir le congélateur de 2000 dindes, les amis, et on a besoin de vous. » Donc, faites un petit geste. Moi, c'est sûr, cette semaine, je m'en vais à l'épicerie, je m'en vais acheter une dinde, m'en vais porter ça à Boucher Généreuse. Merci, bonsoir, ça va être fait, et je vais pouvoir contribuer justement à ce que les personnes qui sont en situation de défavorisation et un réveillon de Noël à la hauteur de ce qu'est un réveillon de Noël. Ils méritent d'avoir le même réveillon que Noël, Anto, que moi, toi, Mathias, Pascal, CV, tout le monde ici va bénéficier.
Absolument. Puis il faut rappeler aussi, la bouchée généreuse, il y a une statistique, moi, qui m'a frappé, c'est qu'il y a 40 % de leur clientèle, ce sont des enfants.
Oui.
Et justement, il y a des moments dans l'année, tu sais, des fois, on se dit, ah, pourquoi on donne plus à Noël, etc. C'est vrai que c'est important de donner à l'année, mais il y a quand même des moments dans la vie d'enfants, notamment, qui sont plus défavorisés, où les inégalités se font ressentir encore plus fortement, où ils se rendent bien compte qu'il y a un manque à quelque part, qu'on voit d'autres familles, peut-être, ou on voit à la télévision, ou... Hey, c'est pas comme ça chez moi exactement. Donc, ce fait-là d'avoir un Noël un peu plus normal, de pouvoir fêter, de pouvoir manger une dinde en famille, ça fait toute la différence. Puis évidemment, on ne donne pas qu'à Noël, hein. On peut donner à l'année, mais c'est un moment fort.
Oui, je me souviens, je vais avoir 46 ans le 29 décembre prochain. Quand j'avais 20 ans, j'ai organisé le Noël au Patro Laval. Et j'ai toujours resté marqué de ça. J'ai un couple de parents qui est venu me voir et qui me dit... « Hey Jean-François, merci parce qu'on donnait un cadeau de Noël à chaque enfant. Merci parce que ma fille, c'est le seul cadeau de Noël qu'elle va avoir cette année. » Parce que les parents n'avaient pas les moyens de faire des cadeaux. Puis là, c'était une tuque bien simple du Patro Laval. Là. C'était rien d'extravagant. Là. Mais au moins, elle déballait un cadeau comme ses autres amis dans cette soirée-là.
C'est ça. Ça donne une normalité, ça donne du bonheur. Moi, il y a un autre organisme, puis je veux pas faire de l'ombrage, je suis généreuse, mais qu'à chaque année, on donne ces Renault jouets.
Bien sûr!
Qui aussi, là, pour plusieurs enfants, ça va être le seul cadeau qu'ils vont recevoir à Noël. Ça leur donne une impression de normalité et ça donne un sentiment aussi de soulagement pour les parents qui aimeraient faire plus pour leurs enfants dans ces périodes-là où les inégalités l'été se font encore plus ressentir. Puis c'est sûr que quand on pense à nos enfants, à nous, là, qu'ils reçoivent, je sais pas moi, 7, 8 cadeaux à Noël, mm-hmm. tu te dis tabarouette, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne pas.
Ah, vraiment.
Faut partager.
Oui, faut partager, faut prendre soin des autres dans cette période-là, du temps des fêtes, notamment nos enfants. Il n'y a pas de doute. Puis la bouchée généreuse aussi, ben, ils vont donner une coupe de bonbons puis de cochonneries.
Ben, oui.
Que les enfants se gardent dans le temps des fêtes. Qu'il y ait du fun, let's go. Puis on parlait justement avec Marie-Pierre Gravel, c'est disponible sur le blvd.fm ce matin, de la honte que les gens ont de se présenter dans une banque alimentaire.
Poser le geste, c'est très, très difficile. Moi, j'ai fait plusieurs collaborations avec les banques alimentaires du Québec. Et vraiment, là, j'entendais des fois des gens qui disaient « Ah, des fois, il y a des gens qui vont dans les banques alimentaires, ils n'ont même pas besoin, là, ils arrivent en auto, il y a un auto de l'année. » Puis, hey, sérieusement, oubliez pensez-vous ça. Que c'est facile d'aller faire la file pour aller chercher de la nourriture
Exactement.
À la banque alimentaire? Au contraire, il y a des gens qui en ont besoin et qui n'osent pas le faire et les besoins sont énormes.
Durant la COVID, j'ai fait justement avec le patron Charlebourg, j'ai géré le comptoir alimentaire là-bas, puis j'étais sur le terrain avec les bénévoles, donc j'allais porter les sacs, parce que durant la COVID, les gens ne pouvaient pas entrer dans le patro. Donc, on allait porter les sacs à l'extérieur, justement. Et là, tu sais, j'ai vu plein de choses. Là. Des gens qui venaient de perdre leur emploi, qui se retrouvent complètement démunis. Qui disaient, écoute, j'ai une maison, deux chars, mais là, tu sais, je vais sûrement avoir mon emploi en restauration.
Il passe un bout
mais
difficile,
quand
c'est passe peut-être
un
temporaire.
Bout difficile, exactement, temporaire. Des gens, justement, qui n'osaient pas venir chercher à la banque alimentaire, puis c'était le frère ou la sœur qui venait chercher pour dire, hey, écoute, j'ai dit à ma sœur, viens avec moi, viens-t'en, je vais te présenter les gens du patro, ils sont bienveillants, tout ça. Mais la personne ne voulait pas y aller, elle avait trop honte.
Des fois, les gens regardent par terre, ils sont gênés. Faut comprendre aussi que la pauvreté a plusieurs visages, puis il faut éviter de juger. T'sais, par exemple, de dire, il va chercher des paniers alimentaires, mais il y a une auto. Mais peut-être que son seul moyen d'avoir un gagne-pain, cette personne-là, c'est de saigner à blanc pour payer son auto.
C'est-tu quoi? C'est en plein ça, parce qu'on avait au-dessus de 50% des gens qui venaient à la banque alimentaire qui ont un emploi.
Ben oui,
mais
c'est
un
ça.
Emploi, tu sais, à 16, 17, 18 piastres de l'heure, mais le besoin d'une voiture pour se déplacer parce que c'est dans des horaires atypiques. Alors, mais le paiement de la voiture, le paiement du loyer, oublie ça, il n'en reste plus d'argent au bout du mois pour te payer de la bouffe.
Il n'en reste plus pour manger ou avoir des aliments de qualité. T'sais, si vous aviez des enfants, vous passez un bout difficile et que de vous payer des fruits puis des légumes, c'est hors d'accès pour vous. T'sais, honnêtement, je pense que notre société, on est capable d'accepter qu'on va partager pour s'assurer que les enfants aient des aliments de qualité aussi.
Oui, bien, ça fait partie là, de toute cette problématique-là. Côté aliments, on le sait, les familles qui ont moins d'argent, ils ont moins les moyens d'aller chercher ces aliments de qualité-là, puis souvent, ça se répercute parfois en problème de santé chez les jeunes, chez les enfants.
L'obésité précoce, le manque de concentration à l'école parce qu'on a soit le ventre vide ou pas des aliments sains à l'intérieur
de notre
corps. Donc,
ça répercute les inégalités puis ça te met des obstacles dans ta vie qui vont peut-être t'empêcher d'avoir les réussites que tu aurais pu avoir avec tes capacités, mais que finalement, tu n'as pas eu accès à des bons aliments, tu n'as pas pu aller à l'école avec un bon repas dans ton ventre. Donc, ça aussi, c'est des inégalités importantes.
327 $ hier, l'épicerie pour nous cinq à la maison.
Écoute.
Puis, Val cuisine.
Oui, oui,
Valérie,
c'est ça. Vous n'avez pas acheté du tout fait. Là.
Non, exactement. Mais c'est sûr qu'on achète des bons aliments pour nous, des bons aliments pour nos enfants. Fait qu'imagine la mère monoparentale de trois enfants qui travaillait à 18 piastres de l'heure.
Je veux dire, pour une famille normale, c'est rendu faramineux, là, le prix de l'épicerie. Je veux dire, en tout cas, moi, personnellement, récemment, là, le prix du poulet, les poitrines de poulet, je n'achète plus de poulet. Je veux pas, je roule sur un budget étudiant. Je pense que la majorité des personnes ont passé par là. On a moins d'argent, on a moins de budget. Mais par choix, je regarde le prix du poulet puis je me dis, je vais m'acheter de la viande en rabais parce que le poulet, pour moi, il est rendu trop cher.
Ben, même nous, là, on a deux bons emplois, moi et Val. Mais tu sais, on a une maison à payer, on a la voiture, hier, c'est pas des poitrines de poulet, là, c'est des hautes cuisses de poulet qu'on ajoute pour mettre dans notre salade.
Tu cours les spéciaux. Là.
Ben oui, mais tu cours les spéciaux, t'as pas le choix.
Jeff,
là, on s'est fait deux gros plats de pâté chinois. Mais on s'est fait Val a fait deux gros plats de pâté chinois. Je vais quand même y donner le mérite. Avec du steak haché en rabais. Là. On n'a pas le choix, là, parce que sinon, oublie ça. L'épicerie va être quoi? 450, 480? C'est impossible.
Mais ce qu'on réalise, on parle pas de bons steaks, de beaux morceaux de viande. Là, on parle de poitrines de poulet qui, quand sont pas en spécial, coûtent trop cher pour nourrir une famille complète. Je suis allé à l'épicerie, c'était 4 poitrines de poulet, c'était peut-être 22 piastres. 20-22 piastres. Pour une famille de 5 enfants, t'en as pour un repas, ça.
Ben, c'est ça.
ça s'en vient ridicule. Fait que, y a rien de honteux à avoir besoin d'aide alimentaire, vraiment pas, parce que c'est pas nécessairement de votre faute. C'est juste que l'économie actuelle, ben, elle est très, très, très difficile.
Ça a
surtout
frappé de plein fouet l'inflation dans les dernières années. Puis il y a beaucoup de monde qui ne l'ont pas vu venir. Puis, veut pas, on prend nos habitudes financières et de consommation quand on part en appartement. Puis il y a comme un contexte financier et économique à ce moment-là. Puis après ça, c'est difficile de changer nos habitudes. Tu sais, par exemple, là, je sors un peu de l'aide alimentaire, mais pour rentrer dans le crédit. T'sais, moi, par exemple, quand j'ai commencé ma jeune vie adulte, le crédit, les taux d'intérêt, c'était 1 % 2
%. Non, ça, c'était facile t'sais, au
bout. Il faut complètement changer nos habitudes. Après ça, faire l'épicerie. Moi, je regardais pas beaucoup les prix là, dans ma vingtaine, là, puis au début de ma trentaine. Hey, maintenant, là, chercher des spéciaux, ça faisait pas partie de mes habitudes du tout, mais il faut s'adapter
maintenant,
parce que
regardes.
L'économie change.
Marie-Ève qui nous écrit, tu disais Food Hero Gang. Oui, en effet, je l'utilise, moi aussi à la maison, l'application Food Hero qui permet justement souvent d'avoir de la viande arabique et congelée, qu'on décongèle et qu'on peut manger. Merci Marie-Ève pour le petit truc. Mathias, on parlait beaucoup de jeunesse. Malheureusement, là, il y a une nouvelle complètement c'est déstabilisante ouais, là, qui est sortie concernant là, les coups de feu dans Bellechasse.
Écoutez, c'est dur de mettre des mots là-dessus, là, mais une nouvelle très triste. Vraiment, là, on parlait d'une personne mineure qui était morte suite à des coups de feu dans Bellechasse et d'une autre personne mineure qui était blessée. Eh bien là, on a eu des détails sur cette histoire-là. On parle d'une fillette de 11 ans qui est malheureusement décédée. Là, ça donne des frissons vraiment. Là. C'est le genre de nouvelle qu'on veut jamais entendre. Donc, et son frère de 15 ans qui a été blessé justement à la suite d'un événement impliquant une arme à feu. On n'a pas les détails de la situation, mais de ce qu'on comprend, c'est une arme qui appartenait à la famille des deux enfants atteints par des coups de feu. Les parents qui n'étaient pas sur place, qui étaient absents de la maison lors de l'événement. Donc, est-ce que c'est une arme à feu qui a été mal sécurisée et par la suite, les enfants ont pu s'en emparer? Ça se pourrait, mais malheureusement, c'est une fillette de 11 ans qui a succombé à ses blessures.
On envoie toutes nos sympathies à la famille, aux proches de la famille. Franchement, c'est une nouvelle qui est très déstabilisante, comme je disais, puis qui amène énormément d'émotions.
Puis, c'est un bon rappel aussi, même si on ne connaît pas les détails, quand on a des armes à feu à la maison, de les ranger de manière sécuritaire. Les accidents peuvent arriver. Je ne dis pas que c'est ça qui s'est passé. Ouais. On n'a pas d'informations, mais c'est toujours un bon rappel pour tout le monde.
Oui, évitez tout drame, s'il vous plaît, en prenant bien soin là, de l'entreposage de vos armes à feu. On va passer à un drame qui est peut-être un petit peu plus analytique et comique. C'est celui du Parti libéral et de QS dans le caucus.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonin Iaccarini.
Bon, Anto, changeons-nous les idées avec la politique, parce qu'on n'a pas eu de break en fin de semaine. T'sais, nous autres qui aiment la politique, là, hey, on était sur nos téléphones.
Écoute.
Là, Vincent Marissal a donné une conférence de presse. Marissal, à tout le monde en parle. Pablo, à tout le monde en parle.
Ça arrête pas. Hey, moi, je me suis mis des objectifs de moins faire de temps d'écran sur mon téléphone.
Ouais. Hey, mais là, tu as eu de la misère en fin de semaine.
C'est un échec complet et c'est de la faute directement au Parti libéral et à Québec solidaire. Ben oui, Pablo Rodriguez qui était à Tout le monde en parle hier. Il avait déjà fait une série d'entrevues vendredi, il avait eu une conférence de presse également, donc on se doutait qu'est-ce qu'il allait dire, mais des entrevues un peu plus longues. J'ai envie de dire aussi, c'est un contexte souvent qui est à l'avantage de l'invité. Hein. C'est pas des hot seats, là, comme on dit en bon français.
Oh, non, tout le monde en parle. Les gens viennent s'asseoir, répondre aux questions, mais on vient pas pousser très loin dans le contre-argumentaire.
Non, puis dans une bonne stratégie de communication où on essaie de changer les perceptions, où on essaie de, disons, changer la direction de la trame narrative là, dans nos relations publiques, souvent tout le monde en parle, ça va être à l'avantage des invités. Donc, on aurait pu s'attendre à ce que Pablo Rodriguez fasse une performance éclatante.
Exactement. Ça n'a pas vraiment été le cas, on pourrait y revenir, mais avant tout, Antonine, moi, je veux t'entendre ça. Ouais, mais écoutez, je ne sais pas, moi, pourquoi Geneviève Reims a été congédié. Hey, là, on est rendu à dimanche soir avec Tout le monde en parle. Ça a éclaté lundi. Y a-tu moyen que le chef ait des informations, s'il vous plaît?
Oui, puis ben, est-ce que c'est de la faute de Marois Risky? Est-ce que c'est la candeur et, le manque de leadership de Pablo Rodriguez qui crée cette situation-là? On le sait pas, puis tout le monde a un peu son opinion. Et j'ai envie de dire aussi, Dépendamment de ton niveau de sympathie pour les libéraux, pour Pablo Rodriguez et pour Marois Risky, ça affecte l'opinion des gens. Parce que, étant donné qu'il y a beaucoup de non-dits puis beaucoup de secrets, ben les gens sont influencés dans leurs spéculations. Je vois beaucoup de gens qui ont envie de croire que Marois Risky n'aurait pas congédié la directrice de cabinet pour rien, qu'elle devait avoir des raisons sérieuses, qu'elle est incorruptible, qu'elle est droite, etc.
Oui, mais là, moi, je vais te le dire, elle m'énerve dans son silence.
Bon, moi aussi, ça commence à m'énerver, là, cette affaire-là.
Moi, être bien franc, là, tu sais. De la politique, c'est de la politique. Fait que là, à un moment donné, lâchez-moi le juridique, lâchez-moi les mises en demeure à droite, à gauche, aux journaux, 500 000 à Marois Risky, puis tout le kit. Là. On peut-tu faire de la politique, s'il vous plaît? Là?
Bon, avant d'analyser plus en détail l'entrevue de Pablo Rodriguez, je pense que c'est important de dire que Marois Risky a réagi hier en faisant un statut Facebook. À quelques heures...
Ouais, même 45 minutes avant,
45 minutes, de tout le monde en parle. C'est pas bien, bien gentil. On voit que ça continue pour Marois Risky de mener... Ce qui continue d'un peu motiver ses actions, c'est pas nécessairement d'aider son chef ou d'aider le parti. Là. Sinon, elle aurait fait les choses probablement autrement. Donc, dans un message Facebook, elle explique un peu plus les raisons qui motivent son silence. On va dire ça comme ça. On n'a pas appris grand-chose. Mais il y a deux éléments qui m'ont frappée. D'abord, elle dit... Moi, comme employeur, je ne peux pas étaler les raisons de ce congédiement sur la place publique car c'est un enjeu de ressources humaines. C'est ce que tu viens de dire, Jeff. Ouais. En politique, les ressources humaines, ça marche pas comme ça.
Non.
Évidemment que ça allait devenir public, puis évidemment que la réputation de Mme Hinz allait être affectée et elle ne peut pas se défendre publiquement puisqu'on ne sait pas personne de quoi elle est accusée. Donc, je pense que Marois Risky sait très bien que c'est pas juste une affaire de ressources humaines. Et deuxième élément qui m'a frappé dans sa réaction à Mme Risky, c'est qu'elle dit, ben si vous êtes si convaincu que j'ai tort et que Geneviève Hinz n'a rien fait de mal, pourquoi vous la réembauchez pas? Franchement, encore une fois, elle a détruit sa réputation.
Mais c'est ça.
Comment voulez-vous que Geneviève Hinz, présentement, avec en plus des poursuites en cours, c'est judiciarisé maintenant, comment voulez-vous qu'elle se pointe, elle, à l'Assemblée nationale, ce matin ou demain matin, puis qu'elle fasse face à un mur de journalistes parlementaires qui vont, évidemment, parce qu'elle est devenue du jour au lendemain une personnalité publique, bien malgré elle, comment voulez-vous qu'elle puisse se pointer et faire son travail comme si de rien n'était? Je veux dire, ce n'est pas réaliste. Donc, j'ai pas aimé cet argument-là. Puis, de plus en plus, je me demande si Marois Risky avait bien compris la tempête qu'elle allait provoquer en congédiant la directrice de cabinet, sa directrice de cabinet, mais aussi celle que Pablo Rodriguez avait choisie, sans donner de justification publiquement.
En effet. Je veux t'entendre là-dessus parce que ce matin, c'est disponible sur le blvd.fm. On avait Marc-André Leclerc, chroniqueur politique également dans l'émission de Marceau le matin. Et il disait, Pablo Rodriguez a mal géré la situation. Il aurait dû dire à Marois Risky, écoute, je suis pas d'accord avec ça, mais je vais trouver un autre job à Geneviève Hinz à l'intérieur du parti. La prochaine fois, tu m'avises. On reste bons amis en public, puis c'est terminé là. Y aurais-tu dû faire ça?
Mais moi, je trouve que c'est un peu facile, en tout respect pour Marc-André, qui est un super bon analyste, en passant. Là. Puis je me suis posé la question également, est-ce qu'il aurait dû la réembaucher tout de suite, Geneviève Hinz? Puis j'ai entendu plusieurs personnes dire ça. Je trouve que c'est un peu facile de regarder ça a posteriori puis se dire qu'il aurait dû faire ça. On a quand même passé plusieurs jours à se demander qu'est-ce qui s'était passé. Mm-hmm. Et Pablo Rodriguez inclus. Puis là, ça m'amène à te parler de son entrevue d'hier parce que c'est ce qui ressort le plus. C'est qu'on a l'impression, coudonc, il était au courant de rien. Il ne savait pas ce qui se passait. Il y avait clairement un conflit de personnalité entre les deux femmes, c'est évident.
Ben oui.
Elles semblaient ne pas s'entendre sur la manière dont gérer un questionnement éthique. Moi, c'est ce que, pour l'instant, avec tout ce qu'on a comme pièce de puzzle. Donc, Marois Risky, il était question d'aller devant la commissaire à l'éthique pour aller demander un avis. Il semblerait que Geneviève Hinz souhaitait procéder autrement, mais pas nécessairement ne pas aller devant la commissaire à l'éthique. Moi, c'est ce que mes sources m'indiquent aussi. Et Pablo Rodriguez, lui, au courant de rien de tout ça. Ouais. Donc, je veux dire, soit que vraiment on y cachait des choses, ou soit que ça ne l'intéressait pas vraiment ce qui se passait à l'Assemblée nationale. Maintenant, il a raison de dire qu'il n'y a pas eu d'explication en détail. Ça devient difficile pour lui de défendre sa directrice de cabinet, ne sachant pas exactement les détails. Et Marois Risky, dans son message hier, nous dit que c'est un enjeu de ressources humaines. Donc, on comprend effectivement qu'elle refuse de donner des détails et qu'elle considère que ça va être dans le cadre de ce qui est judiciarisé pour l'instant. Je veux revenir sur sa performance à Pablo Rodriguez parce qu'il faut aussi rappeler qu'il y a deux situations en parallèle. Ici, il y a le cas de Geneviève Hinz. sur lequel je trouve qu'il a bien répondu hier. Mais il y a toute la question des textos, des brownies, les votes qu'on aurait supposément achetés. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué là, pour M. Rodriguez, parce que ça aussi, on manque d'informations. Et il faut rappeler que le Parti libéral a envoyé une mise en demeure au Journal de Montréal pour non avoir les sources comme telles, parce que les journalistes ont le droit de protéger leurs sources, mais ce qu'on demande du côté du Parti libéral, c'est comment vous avez authentifié ces textos-là. Qu'est-ce qui me dit que c'est pas on a rentré des contacts dans nos cells, on s'est envoyé ces messages-là, on a fait une capture, on a envoyé ça à des journalistes, mais c'est pas nécessairement les
qu'est-ce
personnes
qu'on
pense
que... Qu'est-ce qui me dit que c'est pas inventé?
Et voilà.
Là, exactement. Sur le niveau de confiance qu'il avait en Marois Risky, on écoute justement ce qu'il avait à nous dire, puis je veux t'entendre là-dessus par la suite, Antonine.
On fait confiance. Et je ne suis pas quelqu'un qui fait confiance facilement. Mais Marois, je la connais depuis plus de 10 ans. Geneviève, je ne sais pas combien de temps. Et elle m'a servi comme chef. Elle était ma chef de cabinet à Ottawa durant de nombreuses années, lorsque j'étais ministre. C'est là qu'on s'est connus, d'ailleurs, Pierre, à ce moment-là. Et donc, on doit fonctionner sur la base de cette confiance. Maintenant, sur l'utilisation des ressources parlementaires, moi, tout ce qui est dépensé pour mes tournées, moi, c'est... payé, c'est soumis.
Oui, c'est l'année déjà parlé, là. Moi, c'est tout soumis par le Parti libéral. C'est payé par le Parti libéral. Mais je veux revenir sur le lien de confiance. C'est, c'est beau faire confiance au monde. Là. Moi, je te fais super confiance. T'sais. Puis mes patrons me font confiance. Mais n'empêche, ils vont poser une couple de questions, des fois. Là.
La confiance, ça veut pas dire l'aveuglement non plus.
C'est ça. T'sais, ils vont poser une couple de questions. Ouais, comment ça va avec Anto? T'es-tu satisfait? Comment ça va avec Marceau? Ouais, puis t'sais, ils vont poser les mêmes questions à toi qu'ils vont poser à Marceau.
Absolument.
Tu poses des questions pour savoir, OK, t'sais, c'est-tu juste du paraître leur bonne relation ou c'est vrai?
Bien, c'est de la gestion.
C'est ça.
La gestion, ça peut être de la gestion avec un lien de confiance. Ça pose la question d'avoir un chef qui est ce qu'on appelle dans le jargon extra-parlementaire, c'est-à-dire qui n'est pas député.
Ouais.
Et d'avoir un chef parlementaire et un chef de parti qui sont dans deux chaises parallèles, ça pose visiblement des problèmes. Et tout ça conjugué avec une Marois Risky qui a la réputation de ne pas beaucoup aimer se faire dire non, qui aime, qui aime beaucoup tenir son bout, on va dire ça comme ça.
Une femme forte, une femme qui...
Absolument,
c'est
mais qui est très bonne et qui se le fait dire beaucoup aussi. Donc, elle, elle est très confiante dans son rôle. Quand j'ai lu la réponse des avocats de Marois Risky qui a été envoyée à la mise en demeure de Mme Hinz, il y a un mot qui m'a marqué, c'est celui de... insubordination. Dans le fond, ce qu'on reproche à Geneviève Hinz, c'est de l'insubordination. La définition d'insubordination, c'est le refus de se soumettre. Je trouvais que c'était extrêmement parlant comme choix de mots pour Mme Risky. Donc, on a l'impression, et encore une fois, nous spéculons, car on n'a pas toutes les pièces du puzzle, mais que dans le fond, Geneviève Hinz, elle ne faisait pas ce que Marois Risky voulait, et probablement qu'elle se rapportait davantage à M. Rodriguez.
Guys, exactement. Puis t'es de l'insubordination là, pour avoir déjà été gestionnaire pendant une vingtaine d'années. Faut que tu pousses loin en tabarouette pour que moi, en tant que gestionnaire, je sois capable de dire que tu fais de l'insubordination.
Oui,
faut que je t'ai donné une directive claire, puis non seulement tu l'as pas faite, mais tu l'as pas faite consciemment. T'sais, tu l'as pas faite en me regardant les yeux et en me disant « Ah ouais, tu penses que je vais faire ça? »
Geneviève Hinz, c'était pas un pion, là. T'sais, je veux dire, elle est directrice de cabinet. Donc, c'est pas... une, comment dire, quelqu'un qui ne fait qu'exécuter non plus.
C'est ça.
C'est quelqu'un qui gère également. Puis c'est des relations, des fois, de travail qui peuvent être effectivement complexes. Mais ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas s'être soumise, finalement, à Marois Risky.
Non, en effet. Pablo Rodriguez s'est fait challenger par MC Gilles durant, justement, sa prestation. On l'écoute et par la suite, justement, là, j'ai quelques questions pour toi.
Oui, mais Monsieur Rodriguez... vous voulez devenir premier ministre? On s'entend?
Oui.
Dans une campagne électorale?
Je vais devenir premier ministre. On pourra s'en parler par la suite.
Ouais.
Oui, allez-y.
Vous voulez devenir premier ministre, donc vous allez gérer des crises, un. Et deux, vous allez représenter les 8 millions de Québécois. La question que tout le monde se pose en ce moment, là, si vous n'êtes pas capable de gérer 20 députés libéraux parce que la chicane est pognée dans la cabane, comment vous allez faire pour être premier ministre, gérer des crises?
Merci, M. Gilles, pour la question. C'est très gentil.
Ça fait plaisir.
J'en ai géré énormément de crises tout au cours de ma vie.
Les réponses à la Sam Hamad.
J'ai été élu 6 fois dans une élection générale. J'ai été nommé au cabinet, au conseil des ministres, 4 fois.
Mm-hmm.
Jamais mon intégrité n'a été remise en doute.
Son CV.
Et des défis à l'interne, je gérais au fédéral des ministères de milliards de dollars, dont la culture. Jamais on n'a remis mon intégrité.
Mais on l'a remis en doute.
Non, mais je parle de l'autre.
On remet votre capacité à gérer une crise, ou de
mon incapacité de prendre des décisions ou de diriger, puisque j'ai été nommé et renommé dans des fonctions extrêmement importantes.
Mm-hmm.
Si je n'ai pas été informé, le problème, à mon avis, c'est parce que La personne qui devait m'en informer
n'a pas fait.
Ne l'a pas fait.
Ouais.
Ben, c'est ça, Mais ça revient à ce qu'on disait. Ouais. À un moment donné, comme gestionnaire, il faut que tu sois capable d'aller creuser plus loin et de voir, OK, qu'est-ce qui se passe. Je vais le dire comme ça, tu peux pas être un gestionnaire qui fait juste gérer des crises. Parce que si tu gères juste des crises, t'es un méchant, mauvais gestionnaire parce que tu fais rien pour éviter les crises. T'sais?
Exactement.
Donc, c'est de dire, ouais, Marois m'a pas informé. Ouais, mais c'est à toi aussi à aller chercher. Puis là, quand moi, il revient sur son CV puis son passé, là, mais ça, de la culture, je
roule des
yeux. Me semble que la culture, c'est pas si gros que ça comme ministère.
Ben, à Ottawa, tu sais, c'est. Puis l'autre affaire, puis ça me fait penser un peu, effectivement, à sa maman, c'est un bon parallèle, c'est que. Être ministre puis être chef, c'est deux affaires complètement différentes. Ça n'a pas de lien. Quand tu es ministre, tu fais pas de gestion de caucus, tu fais pas de gestion de personnalité de tes collègues. Tu fais partie des collègues, puis tu fais tes affaires, puis une fois de temps en temps, tu as peut-être un petit conflit par-ci, par-là. Être chef, là, la gestion de ton équipe, c'est énormément crucial. Et c'est vraiment pas donné à tout le monde. Et c'est un défi de plus quand tu es à l'extérieur de l'Assemblée nationale, bien sûr. Donc, moi, il y a quand même... Parmi les options de ce qui a pu se passer, ça se peut que Mme Risky n'a vraiment donné aucun indice, aucun avertissement, que Mme Hinz non plus n'a pas levé le flag à Pablo Rodriguez pour dire « Hey, je veux juste te dire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'en vient là, avec, avec Marois Risky, je le sens pas. » Mais reste qu'il a l'air un peu candide.
Mais si les deux femmes l'ont pas fait, si les deux femmes sont pas allées se confier à Pablo, de
ça
un,
dit quelque chose
ben,
aussi.
C'est ça, de un, ça dit quoi d'énorme? Là,
ben oui.
C'est,
je veux dire, ça c'est... dit qu'il y avait aucune confiance que le chef allait gérer à patente.
Puis de deux, ça emmène aussi une problématique que Pablo aurait dû aller chercher des réponses, même s'il n'en avait pas connaissance. Il doit être au courant de ce qui se passe dans son caucus. Là. Dans la dernière réponse là, sur le fait « Ah, j'ai eu mon passé, je suis même pas sûr qu'il a pu convaincre une mouche qu'il est capable de gérer des crises. »
Non, ben normalement, corrige-moi si je me trompe, Antonine, mais il n'y a pas juste Marois Risky et Geneviève Hinz dans l'équation. Là. Si ça brasse entre les deux, puis là, je vais dropper des noms, un Marc Tanguay, un Frédéric Beauchemin, un André Fortin qui va être son nouveau chef parlementaire, aurait dû lever le flag aussi, aller voir Pablo et dire « Hey Pablo, la situation est intenable » ou « Hey Pablo, il se passe ça ». Fait que si personne parle à Pablo, c'est peut-être parce que personne croit en son leadership aussi.
Ça dit quelque chose sur son leadership, peu importe ce qui s'est passé. Mais c'est sûr que je me garde toujours une petite option que Marois Risky a gardé ses cartes proches d'elle.
Ouais.
C'est difficile aussi d'imaginer que quelqu'un qui veut vraiment le bien de son équipe procéderait ainsi.
En effet.
Il y a comme un enjeu, mais tu sais, il faut le rappeler aussi que Marois Risky est là à appuyer Pablo Rodriguez dans sa chefferie. Là. Fait qu'on passe vraiment du tout au tout vers on met le feu partout, puis tant pis pour le chef que j'ai appuyé. Je veux juste dire un petit mot sur la forme maintenant.
Oui.
Parce que, bon, on peut trouver qu'il patauge un peu. Ce qui est ressorti de tout ça, c'est qu'il a réussi à répondre à quelques éléments, je pense, qui étaient bien, d'autres un peu moins bien, notamment les questions éthiques. Je trouvais qu'il ne se défendait pas très bien, surtout quand il nous dit « Moi, là, je vais défendre le Parti libéral. » Hey, sérieusement, ça fait pas genre « Je vais faire le ménage. » Ça fait « Je vais défendre mon parti.
Hey, » Justement, on écoute le prochain extrait parce qu'on va terminer avec ceci. C'est le Québec, Antonine, qui a besoin de qui?
Du Parti libéral!
Je n'aime pas que mon parti soit sali. On parle du Parti libéral du Québec et le Québec a besoin du Parti libéral du Québec. Vous avez actuellement la CAQ, qui est peut-être, à mes yeux, le pire gouvernement de l'histoire du Québec. Et l'autre option, qui est le Parti québécois, si vous me permettez, Parti québécois, qui nous amène vers un référendum, nécessairement vers un référendum. Et vous avez le Parti libéral du Québec et le Parti d'économie qui vous assure cette stabilité-là. Et qui sait comment gouverner?
Oui, M. Rodriguez, Maurice Duplessis aurait pu dire on a besoin de l'Union nationale. Ça n'existe plus, puis on a survécu. Là. Il y a d'autres partis qui sont arrivés. Je comprends que vous êtes un libéral, mais entre vous et moi, le Québec a besoin de parti libéral. Peut-être que oui, peut-être que non.
Le Parti libéral, si vous regardez à travers l'histoire, c'est celui qui a octroyé le droit de vote aux femmes. C'est la création du ministère de la Culture,
c'est
le ministère
de l'Éducation.
Sortir de la grande noirceur, c'est le fond
de la génération. Charbonneau, là.
C'est la commission Charbonneau et la corruption
Merci
aussi.
Merci, M. Gilles, pour cette bonne réponse.
Ben non, mais c'est ça quand même. Tu sais, quand on dit, la population n'a pas besoin d'un parti politique quelconque. A besoin de politiciens qui vont s'occuper d'eux autres.
Mais c'est un peu comme s'ils nous disaient arrêtez de nous attaquer, là. Ben vous avez besoin de nous.
Oui.
Puis parce que là, les péquistes veulent faire un référendum.
Ah oui, le méchant référendum.
Est-ce que vous connaissez l'adage? C'est en anglais, vous m'excuserez. Better crooks than separatists. On aime mieux des bandits que des séparatistes. Moi, c'est ça qui me venait en tête avec cette ligne de défense-là. Ce n'est pas une bonne ligne. J'ai l'impression que tu vas défendre ton parti envers et contre tous, et j'ai pas l'impression que tu vas vraiment faire le ménage.
D'ailleurs, MC Gilles est revenu, puis là, j'ai pas l'extrait, mais il est revenu là-dessus en disant hey, « quand vous dites que les gens sont venus au Parti libéral, ça me fait peur, moi. »
Les donateurs sont venus.
C'est les donateurs de qui,
tous?
Là? Cellino Zambito qui est de retour dans les parages.
Ben, c'est ça. Fait que ça, ce bout-là, je pense qu'il l'a vraiment raté. Puis, de manière générale aussi, dans son ton, son attitude. Moi, c'est ça, c'est une passion dans ma vie, les communications. Ben oui. Puis, tout passe aussi par le langage du corps. T'as beau avoir les meilleures lignes du monde, si tu les dis en étant énervé, essoufflé,
ces mains,
les mains
là,
qui partent. Là, il replaçait tout le temps son verre d'eau. Il avait l'air un peu
les mains, autant de conférences de presse qu'hier. Là, les mains vont dans tous les sens.
Il a chaud. Il était soufflé.
C'est
là,
un manque de
vendredi,
contrôle.
Vendredi, il parlait tellement vite qu'il s'enfargeait évidemment dans des mots. Puis là, il venait jouer rouge parce qu'il venait de s'enfarger dans un mot. Hey, calme-toi, tu n'as pas l'air en contrôle. Puis ça, je trouve que ça laisse une très, très mauvaise impression aussi à la suite de ces entrevues. Un qui a mieux performé hier, tout le monde en parle, on en parle rapidement, Vincent Marissard.
Oui,
donc
vraiment.
Ça, c'est l'autre saga de la fin de semaine.
La girouette!
La girouette,
le
magazineux.
Une chance qu'on n'est pas à l'Assemblée nationale,
non, on
n'a pas
le droit
de dire ça.
D'ailleurs, un mot qui risque d'être interdit très rapidement, bientôt à l'Assemblée nationale, brownie. Je pense qu'effectivement, on peut se dire que ça va être interdit. Girouette, c'est déjà interdit. Oh. Donc, Vincent Marissard, qui a été pris de court par son propre parti, il semblerait qu'il a été pogné par son agenda, parce qu'il y avait des petits meetings avec Paul Saint-Pierre Plamondon, inscrit à son agenda, puis il y a quelqu'un qui avait accès à son agenda qui l'a stoulé. Et il a été exclu avant qu'il puisse annoncer. Puis c'est ça qu'il nous a raconté hier, à Tout le monde en parle, c'est qu'il aurait voulu faire les choses différemment. Il aurait voulu parler au caucus et faire sa conférence de presse pour expliquer pourquoi il n'est plus capable de faire partie de cette formation politique-là. Les députés solidaires depuis 2018, Vincent Marissal. Et il dit que, puis je trouve qu'il l'a bien expliqué, puis il a bien réussi à revirer les affaires de bord. Parce que quand on a appris qu'il était exclu parce qu'il magasinait un petit peu du côté du PQ, les gens se sont dit, voyons, il mange de tout, lui.
Il voulait aller avec les libéraux de Justin Trudeau.
Il voulait se présenter à Montréal.
Ben, c'est ça.
Montréal.
Là, après ça, il y a du souverainisme, mais je vais aller à QS parce que le PQ est en train de tomber. Puis là, quand QS est en train de tomber, il disait, je pourrais aller à la mairie de Montréal. Puis là, finalement, vu que le PQ est populaire, il va aller au PQ.
C'était l'impression que ça donnait. Mais après son entrevue, honnêtement, puis je le vois dans les commentaires sur les médias sociaux, les gens comprennent que tu puisses trouver ça difficile de faire partie de Québec solidaire, mouture actuelle.
Oui, puis il y a du monde qui disent « Ouais, mais Québec solidaire, ça a toujours été de gauche, tout. » Je comprends, là. Mais depuis le départ en tant que co-chef de Gabriel Nadeau-Dubois, ça reste que tout le monde remarque là, le virage que Québec solidaire a pris. Ce n'est plus le même parti. C'est plus le parti que Gabriel Nadeau-Dubois essayait de recentraliser, de rendre plus crédible. Ouais. Au contraire, ça prend la tendance complètement à l'opposé. Ouais.
Donc, ça paraît d'un sondage, d'ailleurs.
Ben, c'est ça, exact. Ben, oui. Donc, je peux comprendre. Oui. Probablement qu'il y a de l'opportunité dans l'histoire, mais je peux comprendre de dire « j'ai pas changé en tant que personne ».
Mon parti a changé.
Je pense
clairement,
que c'est ça,
on vient d'élire comme co-porte-parole Sol Zanetti qui est appuyé par Catherine Dorion et Émilise Lessard-Terrien.
Ben là, par exemple, Vincent Marissal a appuyé Émilise Lessard-Terrien à la dernière... T'sais, en tout cas, bref, il peut avoir certains illogismes.
J'allais dire, parmi deux choses moi que j'ai aimées, sa sortie sur les usagers de la STM. Parce qu'il a dit, hey, écoutez, là, moi, là, le nombre de courriels que j'ai reçus d'usagers qui disaient, vous nous avez laissé tomber, puis j'étais d'accord avec eux autres.
Parce qu'il faut le rappeler, là, l'Assemblée nationale, tous les partis étaient d'accord pour mettre fin à la grève des transports collectifs à Montréal, et QS a décidé de s'opposer, ce qui a fait en sorte que la grève s'est poursuivie par la suite. Vincent Marissal est en désaccord avec cette décision-là. Il a nommé aussi deux autres exemples. Bon, c'est sûr que parler toujours de Gaza tout le temps, ça, à un moment donné, je pense que c'est un petit peu loin des préoccupations des gens, même si c'est important ce qui se passe à Gaza. Et là, il est revenu aussi sur la crise avec Haroun Bouazi, député de Maurice Richard, qui avait traité tout le monde de raciste à l'Assemblée nationale, ni plus ni moins. Et il a dit que ça l'avait énormément énervé.
Exactement. On écoute l'extrait.
Tout. La perception qu'il y a du racisme à tous les coins de tous les corridors de l'Assemblée nationale, que mes 124 collègues, bon, 123 si j'enlève Haroun, j'imagine, ils sont tous potentiellement coupables d'une forme ou une autre de racisme ou de colonialisme.
Vous n'avez pas aimé ça?
J'ai pas aimé ça. En plus, rappelez-vous, il y a eu cette entrevue après chez Patrick Masbourian, ici en haut, dans laquelle il accusait éhontément et erronément deux ministres, Christian Dubé et Lionel Carman, de choses fausses complètement. Ça m'a irrité. C'est pas comme ça que je veux faire de la politique. C'est pas comme ça que je fais de la politique. Ça m'a vraiment irrité. Et surtout, le fait après qu'il n'y a pas eu de rétractation réelle. Mm-hmm. Ça a même continué. Puis moi, dès le début de cette crise-là, Guilla, je l'ai dit très clairement à mes collègues du caucus, n'importe quel parti normal le mettrait dehors.
Et ça n'a pas été fait.
Oui, non, c'est moi qui me suis fait mettre dehors.
Il a tellement raison. N'importe quel parti normal aurait mis Haroun Boisy dehors. Puis moi, quand c'est arrivé, j'ai dit, bon, il a donné un petit congé. Il va arriver après le temps des fêtes. Il va dire, OK, c'est beau, je démissionne, je m'en vais. On va lui permettre de partir sur une démission plutôt qu'une exclusion. Ben non, tabarouette, on l'a ramené dans les rangs, puis il siège encore.
Oui, puis il y a des dossiers importants, hein, M. Boisy. Et c'est vrai que c'est jamais excusé. Honnêtement, là-dessus, je le crois, Vincent Marissal. Et
vraiment.
Il n'est pas le seul député solidaire qui avait un malaise. Il y a eu des discussions très animées parmi les députés de Québec solidaire. Je pense notamment à Christine Labrie.
Ben, Christine Labrie, ça ne va pas pour rien non plus. Là. C'est juste qu'elle le fait avec moins de fracas que Vincent Marissal.
Exact.
Mais c'est le même principe. Puis Gabriel Nadeau-Dubois l'a dit quand il a décidé de quitter son poste de co-porte-parole.
Ouais.
La gang de militantistes très, très, très à gauche de Québec solidaire a eu sa peau. Là.
Écoute, un exemple que Christine Labrie avait donné qui est parlant, elle a dit « Je m'en vais aider, je suis dans un organisme communautaire puis on va faire des paniers de Noël, puis les gens nous écrivent en dessous des publications. Comment ça se fait que vous faites rien pour Gaza pendant ce temps-là? » Tu sais, à un moment donné, là, tu sais, je veux dire, je comprends que ça peut devenir épuisant pour certains députés qui sont là depuis un bout de temps puis qui ont peut-être cru aussi au recentrage que Gabriel Nadeau-Dubois voulait faire. Bon, maintenant, pour Vincent Marissal, c'est quoi la suite des choses? Est-ce que le PQ va le prendre comme député? Moi, honnêtement, je trouve pas que c'est une bonne idée pour le PQ parce que prendre des transfuges, c'est toujours un couteau à double tranchant. Par contre, hier, Marissal, je m'excuse, mais il a fait une sacrée bonne job pour le PQ. Il a défendu le PQ, il a défendu Paul Saint-Pierre Plamondon puis il a planté QS. Ça, là, c'est du pain béni pour PQ. Moi, si j'étais le PQ, je m'en servirais, entre guillemets, comme indépendant parce que ça y fait une parole anti-QS, mais neutre, sans intérêt partisan. Quitte après ça à lui donner un rôle important peut-être dans un gouvernement.
Il sera chef de cabinet quelque part.
Oui, délégué du Québec à Paris, quelque chose comme ça.
Pas obligé de mettre sa face sur une pancarte électorale pour faire partie de la grande famille péquiste. Antonine Iaccarini, c'est toujours un bonheur. Claude André qui écrit, n'oubliez pas que Manon Massé aussi quitte. Et c'est vrai, elle quitte pas pour elle non plus. Là.
Non,
ils sont tannés.
Il y en a une couple qui me semble bien fatiguée de militer dans leur propre parti.
Ils sont fatigués de ce gang-là qui veut là, le Québec complètement à gauche puis qui est pas capable de faire de compromis.
Non, c'est ça le problème, parce que la politique, c'est des compromis.
Ben oui, c'est
puis clair. Malheureusement, c'est le parti qui, normalement, devrait défendre la classe un peu moins aisée.
Les travailleurs.
Les travailleurs et tout. Ouais. Puis au lieu de ça, ils se font... ils embarquent dans des lubies idéologiques au lieu de vraiment aller à la défense de leur propre monde.
Tu sais ce que tu viens de dire comme texto, puis je termine là-dessus. Là, je fais des banques alimentaires, mais je me fais dire, tu fais quoi pour Gaza? Ouais, mais c'est à cause... Je suis en train de nourrir les plus défavorisés de notre société.
Oui, mais il y a un génocide, Jeff.
Ouais, mais
il y a un génocide, tu comprends-tu? Il n'y a plus rien d'autre qui compte. Hey, je m'excuse, je finis là-dessus.
Oui, mais attends, on va fermer la bouchée généreuse.
Ah, ben,
puis on va tout envoyer à Gaza.
À Gaza, exactement. Dernier potin en terminant, je connais des gens qui travaillent dans des ambassades puis des consulats. Puis il y a quelqu'un qui me disait qu'il y avait un nouveau représentant consulaire qui arrivait d'un autre pays que je nommerais pas. Et la personne qui rencontrait Ruba Gazal et elle n'a parlé que de Gaza. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu rencontres, tu représentes le Québec aussi comme parti d'opposition. Puis la seule affaire qu'elle avait en bouche, c'était ça. Voilà.
C'est ça, exactement. Donc, tu fais pas de la politique internationale, tu peux faire de la politique aussi pour ta propre province quand tu es élu par des jeunes de la province de Québec.
Tu peux parler de Gaza, mais peut-être aussi tu peux juste parler de, des gens d'ici aussi. Là.
En effet. Antonin Iaccarini, toujours un bonheur. Après la courte pause à Boulevard 102, on va faire le tour de l'actualité avec Mathias Turcotte. Et je vous présente également des extraits d'une entrevue que j'ai faite avec Véronique Thibault, une mère de famille. Sa fille Jasmine a 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi qu'elle se bat contre le système pour que sa fille soit soignée au poumon. C'est une histoire invraisemblable. Les 12 travaux d'Astérix, c'est rien à côté de l'histoire de Véronique Thibault. Je vous présente ça après cette courte pause sur Boulevard 101. Émission On en jase sur les ondes de Boulevard 101 qui se poursuit. Il est présentement 12h47. Avant de passer à l'actualité avec Mathias, vous rappelez qu'à la météo, c'est moins 2 degrés Celsius à l'heure actuelle. On prévoit un maximum de 0 degré avec alternance soleil et nuages pour aujourd'hui. 4 degrés avec possibilité d'averse de pluie ou de neige à 30 % demain mardi. 3 degrés pluie intermittente pour mercredi et neige intermittente à 0 degré pour jeudi. Je vais vous parler du cas de Véronique Thibault, une mère de famille avec sa petite-fille Jasmine, 2 ans et demi. Les 12 travaux d'Astérix, c'est rien à côté de ce qu'elle vit depuis la naissance de sa fille qui a des problèmes au poumon. Naissance qui remonte à avril 2023. Mais on a reçu un excellent texto et vous pouvez réagir toujours au 418-971-1021. On adore vous lire. On adore également lire quelques-uns en ondes et écoutez bien cette histoire invraisemblable. Hey guys, voulez-vous rire? Puis vous allez voir qu'il n'y a rien à rire là-dedans. En 2016, j'ai fait une demande en psychiatrie pour des idées suicidaires. On m'a mis sur une liste d'attente parce que je n'avais pas de plan, donc considéré pas urgent. La personne des idées suicidaires, moi, c'est pas urgent. Ah, pas de plan?
Ah.
Oui, voyons non. C'est pas grave, ça, les idées suicidaires.
Le stock, tu as acheté? Non, bah non.
Bah non, bah, t'as pas envie de te suicider, toi, là.
Prends des démarches sérieuses dans ton processus, puis reviens nous voir
ben,
après.
Ben, c'est ça, exactement. Quand tu seras rendu avec la corde au cou, appelle-nous, on verra si on fait de quoi.
On verra si on a les ressources, puis on a le temps à t'accorder.
En plein ça. En 2018, je suis devenu majeur. Donc, on comprend qu'en 2016, la personne était mineure. Donc, on a recommencé le processus sur une liste d'attente pour adultes. Ben, pourquoi pas?
Ah oui.
Hey, t'étais déjà sur une liste d'attente, mais là, tu deviens majoritaire, donc tu deviens majeur, donc on va t'envoyer sur une nouvelle liste d'attente. C'est comme les enfants de la DPJ. T'es rendu à 18 ans, t'as plus besoin d'aide, man. Quand tes affaires dans 2 sacs de vidange, organise-toi dans la vie, puis là, après ça, on se demande pourquoi on a une crise en itinérance.
Puis il faut que je te rappelle, là, ça fait juste 2 ans, puis t'es pas considéré urgent. Là.
Non, c'est ça, exactement.
Prends ton mal en patience, s'il te plaît.
Bon, on est rendu quoi, 2025, Mathias?
Oui, 2025.
Puis on finit 2025, là.
Ouais, on
arrive en 2026, là, dans à peu près un mois et demi, OK? Hein? On vient de l'appeler pour lui dire qu'une place se libère bientôt pour moi au public. J'aurai eu le temps de tresser 3 fois ma corde. C'est Megan qui nous a écrit ça. Megan, merci pour ton témoignage. Merci infiniment d'écouter Boulevard 101 et d'interagir au 418-971-1021. On a vraiment la santé mentale à cœur à Boulevard 101. Alors, merci de ton histoire. Je veux te féliciter en nombre d'avoir pris la bonne décision. Megan, je sais, j'ai déjà vécu moi aussi avoir des idées suicidaires. Tu as pris la bonne décision. Tu as décidé de demeurer en vie, de vivre ta vie. Félicitations, Megan. Bravo pour ton cheminement. Puis lâche pas, ma chum, je sais que ça doit pas toujours être facile.
Puis on est content que tu sois encore avec nous. On est content malgré le fait. Là, ça a pris 9 ans avant qu'elle aille en retour. Dis-toi ça, 9 ans. Là.
Exactement.
Megan a réussi à reprendre sa vie en main, a réussi à éliminer ces idées noires-là. Mm-hmm. Mais imagine-toi le nombre de personnes qui font ces demandes-là, qui ont déjà... Ça prend déjà un certain courage à aller faire la demande, qui se font dire « Hey, ton cas, il est même pas urgent. » 9 ans plus tard, pour certains de ces cas-là, ben c'est trop tard.
Ouais. C'est trop vraiment.
Dans ce cas-ci, Megan s'en est sortie. Mm-hmm. Mais t'imagines-tu le nombre de cas qui doivent attendre des années, puis que finalement, ben, une fois que le call arrive, ben, c'est déjà trop tard.
Exactement. Vois-tu, Megan écrit exactement ça. Elle dit « Moi, j'ai réussi à me trouver des ressources par moi-même. » Mais c'est de penser à ceux qui n'ont pas cette énergie-là, puis qui vont justement s'enlever la vie à cause de ceci.
Ça témoigne de malheureusement que notre système de santé, puis l'histoire de Véronique Thibault tout à l'heure va en témoigner également, que notre système de santé, ben, il remplit plus nécessairement sa promesse de nous donner accès à des soins efficaces.
Pas du tout. Avant qu'on passe à l'histoire de Véronique Thibault, Mathias, quelques manchettes?
Oui, rapidement. Là, bon, on est déjà dans une humeur triste, là, mais je veux pas scraper votre journée,
non,
mais
allons,
j'ai pas le choix d'en faire mention. Là. Un drame qui est arrivé hier, une fillette de 11 ans qui a perdu la vie dans le secteur de Bellechasse-Saint-Vallier à la suite de coups de feu. En gros, on sait pas beaucoup de détails, mais de ce qu'on comprend, c'est une arme à feu qui appartenait à la famille de deux enfants, la fillette de 11 ans qui a perdu la vie et son frère de 15 ans qui a été également atteint par balle, mais qui, pour l'instant, ne craint pas pour sa vie. Là, ça fait des blessures. Donc, est-ce que c'est une arme qui a mal été verrouillée à la maison? On sait que les parents n'étaient pas sur place lors de l'incident, mais de voir un drame comme ça, une fillette de 11 ans qu'on perd malheureusement beaucoup trop tôt, ça fait toujours mal.
Oui, nos sympathies à la famille, nos sympathies aux proches de la famille et nos sympathies à la communauté de Bellechasse qui est frappée durement là, par ce drame.
On se transporte du côté de Montréal. Je veux vous parler d'un fait divers quand même assez spécial.
Hey, ça, c'est invraisemblable. Vas-y.
Oui, OK. Bon, on sait, là, on connaît la famille Rizzuto, donc qui sont présentement emprisonnés. Donc, mm-hmm. Le co-chef de la mafia montréalaise, Leonardo Rizzuto, son fidèle allié Vito Savaggio, puis on parle de trois Hells Angels aussi, qui étaient présents. Ces trois personnes-là étaient détenues. Puis, hier, en fait, il y a eu des coups de feu vers ces cinq personnes-là.
Des coups de feu de quoi? Un gardien de prison?
Non, ben ça semblerait. En tout cas, selon les informations, ça aurait été visé aux cinq personnes dans le but de les abattre avec une carabine semi-automatique de type
AR-15. Fait que quelqu'un caché, puis là, il a dit « Ah ouais, je tire Rizzuto à soir. »
Oui, ben c'est ça qui est intéressant, parce qu'avec les informations qu'on a eues, on a l'impression que c'est une tentative de meurtre, mais ça pourrait bien être... C'est même cinq personnes-là, les cinq membres du crime organisé, qui ont organisé cette fausse tentative de meurtre-là dans le but d'être transférés. Je vous explique l'histoire.
Vas-y.
Ces personnes-là voulaient être transférées. Ils ont fait une demande pour être transférées à la prison de Bordeaux, ce qui leur a été refusé. Donc, il y aurait présentement une théorie sur la table comme quoi c'est eux qui ont concocté cette mise en scène-là pour être transférés. Puis comme de fait, ils ont été transférés à Bordeaux hier dans la soirée. Ce qui donne des indices de ça.
Fait que ça brassait trop à Port-Cartier, puis là, on s'est dit, quand on va aller tranquillement à Bordeaux? À Bordeaux, d'après moi, on a plus de livraison de drones, fait que ça va être facile.
Plus facile automatiquement. Des indices qui donnent que ça pourrait être un coup complètement organisé, là, pas une réelle tentative de meurtre, c'est qu'on a retrouvé la carabine, puis on a aussi trouvé des photos de cibles. Mais selon un policier d'expérience, il a jamais vu ça.
Ouais, mais c'est ça, parce que, tu sais, moi, là, j'ai toujours vu ça. J'ai écouté beaucoup de films de tueurs à gages. On entend beaucoup de choses dans les médias. Il y en a qui se sont livrés aux médias. Il me semble qu'il laissait toujours une petite photo, hein?
Ouais.
Hey, regardez, monsieur les policiers, là, c'est lui que je voulais abattre. Ouais. Je l'ai raté, mais dites-vous que je vais l'avoir la prochaine fois.
Dans la vraie vie, mettons, c'est pas le même que ça se passe.
Non, ouais,
c'est ça. C'est quand même assez spécial que, bizarrement, il y avait ces fameuses photos de également, il n'y a aucun impact de projectile d'armes à feu qui a été retrouvé sur les lieux. Donc, ça amène au questionnement. On va peut-être avoir le fin fond de cette histoire-là au cours des prochains jours.
Exactement. Une petite dernière pour la route?
Oui, une petite dernière. Je veux vous parler des phénomènes de fraude qui sont de plus en plus présents.
Oui, ça, c'est important d'en parler.
Oui, parce qu'on parle de malfaiteurs, de personnes vraiment mal intentionnées qui utilisent des noms de policiers. On parle des noms de David Poitras et Pierre-Olivier Lévesque qui ont notamment été utilisés, donc deux personnes qui travaillent aux communications du SPVQ. En gros, des fraudes, c'est un type de fraude qu'on voit depuis quelques mois maintenant, mais c'est des personnes qui appellent à la maison. Là, il y a un cas qui a été détaillé dans le Journal de Québec. Des personnes âgées, par exemple. Puis là, ils se font passer pour un sergent de police, pour quelqu'un qui travaille aux communications de police. Puis ce qu'on dit aux personnes appelées, c'est que plusieurs vols ont été commis dans le secteur, même dans l'immeuble à logement précisément. Puis on demande à la personne, par sécurité, par prévention, de placer ses bijoux, ses cartes bancaires dans un petit sac et de placer le sac devant chez eux. Bien, en fait, de remettre le sac au policier qui va passer pour que le sac puisse être sécurisé pour s'assurer qu'il n'y ait pas de vol. Là. Donc, la dame, ici, dans le Journal de Québec, avait placé ses bijoux. On parle de 2 000 $ en bijoux, dont des bijoux qui appartenaient à son mari qui est décédé. Elle les a placés dans le sac et le faux policier, la personne qui avait appelé pour dire « On va sécuriser tes avoirs précieux » est passé prendre le sac et on ne l'a jamais recroisé.
Exactement. Donc, comme on le disait ce matin, parlez-en. Parlez-en avec vos parents, parlez-en avec vos grands-parents. Dites-leur d'appeler le 911 si jamais ça arrive. Dites-leur de vous appeler pour que vous puissiez justement leur dire que ça fait partie d'une fraude parce que ce n'est pas des vrais policiers. Histoire invraisemblable, Mathias, de Véronique Thibault, la maman de Jasmine, qui est maintenant rendue à 2 ans et demi, qui est en évaluation actuellement à Montréal, et je vais vous parler de ça, pour la détection d'une maladie rare au poumon qui touche à peu près un enfant sur 40 000. Mais Jasmine est née en avril 2023. On est maintenant rendu en novembre 2025. Et depuis ses premiers jours où elle est née avec des troubles respiratoires, que ses parents se battent contre le système de santé pour que Jasmine soit soignée. Pourquoi? Parce que la médecin de famille de cette famille est tombée en arrêt maladie. Puis en arrêt maladie prolongé. Fait que tous les dossiers qui sont faits sont toujours tombés en deux craques du système. C'est comme si le système reposait seulement sur une médecin de famille. Je me suis entretenu hier pendant 45 minutes avec Véronique Thibault. Je vous présente là l'essentiel, justement, de ce que j'ai eu. Et on commence, Mathias, après quelques mois, après 4 mois de sa naissance, Véronique Thibault débarque à l'urgence avec sa petite fille qui a des problèmes respiratoires.
Et 4 mois après, on était en train de faire des courses et ma fille voit un petit biberon de lait, s'étouffe et je sens que dans ses poumons, il y a vraiment là, du liquide. Là. C'est comme si ça faisait du pop-corn quand je la tenais dans mes bras. Là. J'ai appelé l'ambulance et là, on est parti au CHUL, au Centre Mère-Enfant à Québec, qui nous a reçus, mais sans gravité, un peu en sachant pas trop. C'est quelque chose qui n'arrive pas nécessairement souvent. Puis, ils prenaient plus ça comme si elle allait développer un virus ou quoi que ce soit, mais honnêtement, c'était pas ça. Bon, bref. Fait qu'on est retourné à la maison après cette visite en ambulance-là au CHUL avec rien. En se faisant dire, si on voit que ça change son état, qu'on lui retourne.
418-971-101, si vous voulez réagir et nous raconter des histoires, justement, comme Mégane nous a raconté tout à l'heure. C'est épouvantable. Elle arrive à l'urgence. Oui. Elle dit, j'ai donné quelque chose à boire à ma fille. Ça fait comme du pop-corn dans les poumons. J'arrive en ambulance. On la retourne à la maison en disant bon, on n'a rien trouvé, bonne chance. Ah, c'est vrai, mais elle a sa petite fille de 4 mois. Et là, on envoie les documents, j'en ai parlé à sa médecin de famille, oui. Mais qui est en arrêt de travail. Mais comme c'est un arrêt de travail, c'est pas comme une retraite. Alors, on ne transfère pas les patients. Donc, imagine, le CHUL envoie les documents, sûrement par fax, là, vu qu'on est encore dans notre système de santé, au médecin de famille. On paye les documents, on pitche ça dans le dossier parce que le médecin de famille n'est pas là. Alors, on n'a aucun retour. On fait voir aucun spécialiste à Jasmine. Donc, il se passe rien dans son dossier, mais elle s'étouffe.
Mais tu t'en rends compte, Jeff? Là? Je veux dire, un médecin de famille en arrêt de travail, on parle de documents médicaux, on ne parle pas de documents financiers ou quelconque, un autre travail que la personne est en arrêt de travail puis on se dit, il gérera ça en arrivant. Là, on parle de cas médical, on parle de cas qui peuvent dépendre de si une personne vit, oui ou non. Mm-hmm. Ce qui se passe, ce dossier-là va là, puis on dit, le médecin est en arrêt de travail, personne ne va s'en occuper.
Ben justement, y a-tu moyen que le système s'en occupe? Et là, écoute bien la débrouillardise de la mère qui est prise avec une enfant qui a de la misère à respirer.
À partir de ces 6 mois, ma fille, moi, je la faisais dormir souvent la nuit dans une chaise vibrante. Parce que lorsqu'elle était couchée, premièrement, elle n'était pas capable, avec toute cette pneumonie-là qu'elle avait faite, elle ne faisait pas le rouler dos ventre dos. Donc, si on la déposait sur le dos, elle restait sur le dos. Si on la déposait sur le ventre, elle restait sur le ventre. Même à 6 mois, même à 8 mois, elle n'était pas capable de se déplacer. Donc, elle s'étouffait dans ses sécrétions.
OK.
La seule manière que j'ai trouvée qu'elle soit pas bleue, parce que c'est arrivé plusieurs fois que la nuit, elle dormait à côté de nous, qu'elle soit bleutée. Mais c'était de la faire dormir dans une chaise vibrante, cet enfant-là.
Et là, ça, ce truc-là, cette technique-là, vous l'avez trouvée par vous-même?
Oui, parce que j'en avais une chez moi, puis c'était la seule façon que je trouvais qu'elle allait mieux, parce que lorsque j'allais consultant clinique, puis que je faisais, mettons, le mouche bébé, c'est comme, ben, elle n'a pas des sécrétions dans son nez qui l'empêchent de respirer, c'est comme plus bas. C'est comme dans ses poumons, dans ses bronches, dans sa gorge, je sais pas. Puis les infirmières ou les personnes qui ont jugé Jasmine à ce moment-là, c'est comme, ouais, ça se peut, mais tu sais, peut-être que tu le fais pas bien, c'est comme pas vraiment possible ce que tu racontes.
Ouais, ça se peut. Peut-être que tu le fais pas bien, c'est pas vraiment possible. Elle est rendue qu'elle fait dormir sa fille dans une chaise vibrante. Elle retourne à l'hôpital décontenancée en disant « Hey, ma fille devient bleue la nuit. Elle va mourir à côté de moi. Je fais quoi? » Ah, tu le fais sûrement pas comme du monde. On retourne à la maison.
Non, mais ça se peut pas, ce que tu me
dis. Ça se peut pas, voyons donc.
Ce qui est grave dans cette histoire-là, c'est qu'on parle pas d'une mère négligente. On parle pas de quelqu'un qui a des comportements négligents.
Ah, non.
Non, on parle vraiment d'une mère qui a à cœur le bien-être de son enfant, qui demande des ressources, qui va demander l'aide à plusieurs reprises.
Exactement.
Qui n'est pas capable de, de l'obtenir dans un système qui est censé nous la fournir de manière efficace.
Ben oui, de manière efficace, exactement, avec l'argent qu'on met dans ce système-là. Juillet 2023, puis je reviens au premier extrait, c'est là où elle s'est présentée à l'hôpital en ambulance, puis qu'elle disait « Écoutez, ma fille vient de boire de quoi, ça marche pas dans ses poumons. » On l'a retourné à la maison. Fait que là, pendant tout ce temps-là, ce 9 mois-là, la chaise vibrante, les pneumonies à répétition, les visites à l'hôpital, on fait jamais rien. Puis là, abracadabra, maintenant, juillet 2024, tiens, on découvre que finalement, c'est le liquide.
Il y a personne qui a été capable d'expliquer ça. Puis mon cerveau me l'explique toujours pas, puis il a fallu que je me batte. Et que je me batte, et là, en juillet, on me dit, là, je suis encore dans la salle avec en radiologie, OK? Et là, on me dit, ah, ben oui, elle aspire, fait que, OK. Puis là, il me dit, bon, on a fait l'examen, vous pouvez retourner chez vous. Là, je suis sidérée. Je regarde les gens autour de moi, puis je leur dis, OK, là, j'ai un enfant de elle avait un an et quelques, dans les bras, que tu me dis que si je pars avec, elle va réaspirer des affaires. Ah, mais tu vas lui donner des liquides épaissis. Tiens, voici un sac d'échantillons. Commande-les en ligne. Et là, mais je ne peux pas voir personne. J'ai refusé de quitter. Là, la personne qui était en radiologie a fini par rappeler pour avoir un pédiatre en ligne pour qu'il me fasse voir en urgence pédiatrique.
Imagine-toi, elle est obligée de faire un sit-in à l'urgence. Elle est obligée de dire « Hey, attendez une minute, là, c'est parce que là, moi, je suis juste une mère de famille. Je suis pas une infirmière, je suis pas un médecin. Là, vous me dites « Commande ça en ligne, fais ça de même, puis ciao, bye. » Alors là, obligée de faire un sit-in pour enfin voir une pédiatre. Hey, tout ça après un an et demi de problématiques au poumon. La pédiatre, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit « Parfait, je vous évalue. En effet, c'est un dossier urgent. Je transfère ça au pneumologue. » D'ici 3 semaines, vous allez avoir un rendez-vous. Ben, imagine-toi donc que le temps passe, puis il n'y a pas de nouvelles du pneumologue. Donc, là, Valérie était tannée d'aller à l'urgence du CHUL, parce qu'elle dit, écoute, je ne suis pas écoutée. Elle est allée à l'urgence de Chauveau. Et c'est là que, finalement, elle est tombée sur un urgentologue qui, lui-même, a appelé en pédiatrie. Et Jasmine est hospitalisée pour la semaine et a enfin passé des examens plus approfondis. On est rendu en septembre 2024. Je le rappelle, elle est née en avril 2023. On lui retire les amygdales, on lui retire des végétations. On découvre aussi que toutes les pneumonies ont fait en sorte qu'il y a une partie de son poumon droit qui ne fonctionne pas. Et Valérie va donc apprendre des techniques de clapping, donner de la médication, puis avoir un compresseur d'air à la maison pour sa fille. Fait que t'imagines, si elle ne s'était pas rendue à l'urgence de Chauveau, si elle n'avait pas fait tout ce qu'elle avait à faire, son enfant serait peut-être décédé.
Ce qu'il y a à noter dans cette histoire-là, c'est oui, certaines lacunes de notre système de santé, mais des lacunes humaines aussi. Je veux dire, il y a plusieurs médecins, excusez-moi le terme, qui n'ont pas fait leur travail. Il y a plusieurs médecins qui auraient dû agir pour qu'elle ait besoin de faire un set-in à l'hôpital pour finalement avoir la pédiatrie qui dit « Hey, t'as raison, c'est urgent, on va te prendre en charge dans 3 semaines. » Pour que finalement, dans 3 semaines, je sais pas si c'est un document qui est tombé dans une craque de divan ou autre, là, mais c'est pas normal. On dit « T'as un dossier urgent. »
C'est ça.
« D'ici 3 semaines, on te prend en charge. » Puis on l'a dit « C'est urgent, On ne revient jamais.
En plein ça.
On ne revient jamais.
Mais là, on n'est pas rendu à la fin de l'histoire, Mathias, imagine-toi donc. Le roman d'horreur se poursuit. Parce que malgré tout ça, il faut faire un scan en trois dimensions et un IRM pour tenter de découvrir pourquoi le poumon droit s'est affaissé. OK? Avec le scan, on découvre qu'elle a un champignon et des bactéries dans un poumon. Mais on n'est pas capable de s'expliquer pourquoi, donc ça prend un IRM pour ça. Tadam! L'IRM qui est demandé depuis juin et qui devrait être fait dans un délai de 6 semaines, n'est pas encore fait le 18 août de cette année, 2025. Puis là, alors qu'on se parle, on est le 24 novembre, c'est pas fait encore, OK? Mais là, on s'imagine que ça va débouler parce qu'on se dit, voyons, okay, on est le 18 août. Valérie communique via son député, Sylvain Lévesque, avec Santé Québec. Écoute bien la réponse de notre bel organigramme de Santé Québec.
Santé Québec, quand ils ont regardé dans le dossier à Jasmine, ils ont dit « Ah, mais les prises en charge, puis là, on n'est pas encore dépassé le 90 jours de délai pour la demande d'IRM. Tout est beau, ça va être réglé dans les délais. Merci, bye.
» OK, donc, malgré le dossier que vous avez de médecin de famille qui tombe en arrêt de travail, d'ORL qui part à la retraite, de tous les moments que vous êtes tombé entre deux chaises, pour Santé Québec, tout est beau, l'IRM va être faite dans les 90 jours.
Sur papier, c'est exactement ce qu'on m'a répondu.
OK. Donc, mais votre fille souffre encore, il y a des champignons dans ses poumons. Vous savez pas pourquoi il y a ces champignons-là, les médecins non plus, mais c'est pas grave, tout est beau, le dossier est bien fait de la part au niveau médical.
Exactement.
Pas pire, hein? C'est une bonne réponse, ça, de Santé Québec. Ben voyons, tout est dans les délais. Non, c'est parce que c'est urgent depuis qu'elle est née en avril 2023. Il n'y a rien d'un délai. On a demandé l'IRM en juin qui devait être fait dans un délai de 6 semaines. Au 18 août, ce délai-là est passé, mais on dit, ben non, c'est 90 jours.
Ouais, non, là, Jeff, tu vas me prendre de haut comme ça, là. Je pense que t'as mal compris.
C'est ça.
Le dossier est très bien pris en charge par nos spécialistes, d'une façon professionnelle. Là, 6 semaines, je sais pas d'où ça... C'est 90 jours. 90 jours, là, hein? Ben, on respecte nos délais, on est bon à Santé Québec.
Mais là, c'est-tu le pire, c'est qu'elle dit, bon, ben, coudon, je vais pousser ma démarche plus loin, je vais faire une plainte à la commissaire aux usagers et aux protecteurs du citoyen. Ben, les deux lui sont revenus. Tu sais-tu ce qu'ils lui ont dit?
Vas-y.
Ils ont dit, hey, Valérie, t'es 224e, votre fille est 224e sur la liste et on fait 4 enfants en IRM par jour. Donc, le délai sera dépassé et ce sera d'un an. Fait que Jasmine, qui a des problèmes respiratoires depuis sa naissance, qui a un poumon droit d'affaissé, qui a fait 14 pneumonies, qui s'est fait enlever les amygdales, qui s'est fait enlever des végétations, qui a des champignons dans le poumon. C'est parce qu'on en fait 4 par jour.
Puis plus loin que ça, là, elle a contacté Santé Québec. C'est quoi que Santé Québec lui a dit? Il lui a dit, on va te prendre en charge en dedans de 90 jours.
Ouais.
Santé Québec devait les avoir, ces données-là.
Ben, c'est clair.
Pourquoi ils n'ont pas été ouverts avec. Pourquoi ils n'ont pas été honnêtes? Pourquoi ils lui ont pas dit non, on a une grosse liste d'attente, malheureusement, ça va être un an. Non, non. On voulait juste lui dire, hey, laisse-nous tranquille, arrête de nous harceler, t'auras ton IRM quand t'auras ton IRM. C'est un manque de respect total.
En plein ça. Bonne nouvelle pour Valérie, elle a maintenant un nouveau médecin de famille. Mais malgré ça, elle a dû retourner à l'urgence avec la petite Jasmine le mois dernier. Elle a été hospitalisée 4 jours. Elle a été obligée encore d'être insistante parce que Jasmine faisait de la fièvre juste depuis 24 heures. Puis quand une enfant fait de la fièvre juste depuis 24 heures, bien, elle retournait à la maison, donner des tinénols. Madame, voyons donc, qu'est-ce que vous faites ici? Bien, imagine-toi donc que ses amygdales ont repoussé. OK? Ça arrive. À 1% des gens, les amygdales peuvent repousser.
Okay.
Mais là, les amygdales ont tellement repoussé qu'ils sont considérés comme de grade 3. OK? À grade 4, l'air passe plus. Tu meurs. Donc, demain, elle se fait retirer à nouveau ses amygdales. Aujourd'hui, Jasmine est ailleurs. Elle est à Montréal. Et encore, grâce à l'insistance de ses parents, il y a un mois, à l'urgence. Et Valérie nous explique qu'est-ce qu'elle va faire à Montréal.
Donc, est-ce qu'elle serait pas atteinte d'une maladie rare? Donc, je me fais envoyer à Montréal demain pour voir le spécialiste, Dr. Shapiro, qui est au Children's Hospital à Montréal, pour aller faire un dépistage de dyskinésie ciliaire primitive. Alors, donc, c'est ça. Donc, demain, je vais aller confirmer si oui ou non elle est atteinte de cette maladie-là qui affecte les cils des poumons, des sinus, et ça les empêche de bouger. Donc, le mucus se ramasse comme dans les petits marécages, un peu stagnants, avec des virus, avec des bactéries, avec des champignons. Ils peuvent pas sortir parce que le mouvement des cils ne se fait pas comme chez les êtres humains qui auraient pas la maladie.
Alors, ça serait une maladie génétique rare. C'est ce qu'on va aller tester avec justement le spécialiste, le docteur Shapiro, aujourd'hui. Demain, la petite Jasmine va se faire retirer à nouveau les amygdales et quelques végétations. Et Valérie Thibault, sa mère, va venir nous parler en studio. Si ce n'est pas cette semaine, ça va être au début de la semaine prochaine pour nous dire comment va la petite Jasmine et comment vont ses démarches. On a Marie-Ève qui nous écrit « Je suis en attente de greffe rénale et en prédialyse. Je trouve que le système de santé craque de partout. Il faut faire attention et être alerte. Cela fait deux fois que je dois me fâcher et m'obstiner pour obtenir les bons rendez-vous dans les bons délais. Ici, c'est le personnel administratif qui est en cause. Moi, je le répète, je suis en vie parce que je suis un ostineux de nature. Je faisais une phlébite avec une embolie pulmonaire. Les premières personnes que j'ai vues à l'urgence m'ont dit « C'est pas ça que tu es en train de faire. » Je suis allé voir un autre médecin qui m'a dit « Ah ouais, à l'urgence, ça presse. Tu as du sang dans les poumons. » Alors, obstinez-vous, guys. T'sais, soyez toujours courtois là, avec le personnel, mais oui, obstinez-vous. Allez-y de l'avant. Santé Québec, c'est pas le Top Gun à $1 million par année. Oui, c'est ça, Santé Québec, et c'est la bonne réponse qu'on a fait et qu'on a donné à Véronique.
Il y a des histoires de même, c'est ça qui s'en vient inquiétant. Là. Depuis quelques années maintenant, là, avec les listes d'attente pour des chirurgies qui augmentent faramineusement, avec tous les problèmes de santé mentale qui se sont multipliés avec la COVID, de plus en plus, des cas de même, ça devient fréquent. On ne parle plus juste... Là, on a le cas de Valérie devant nous autres, on a le cas de la petite Jasmine, mais... T'imagines-tu pour un cas comme ça, dont on est conscient, il y en a combien qu'on n'a aucune idée, il y en a combien que les parents n'ont pas fait les démarches aussi loin que Valérie, puis finalement leurs enfants n'ont jamais eu des soins qu'ils avaient besoin. Il y en a combien des cas comme ça? Puis ça amène un questionnement. Là, on s'en vient dans un point problématique où que notre système de santé, c'est un système de santé gratuit, universel. Tout le monde qui travaillent, payent des impôts pour ça. Et la promesse que ce système de santé fait là, c'est que tous les Québécois, peu importe ton revenu, peu importe ta rémunération, va pouvoir avoir accès à des soins simples, des soins efficaces, mais on va vous prendre en charge. Mais de plus en plus, ce qu'on voit, c'est des Québécois, des Québécoises qui ne sont plus pris en charge par notre système
Exactement,
de santé.
Exactement, malheureusement, par le fait qu'on a beaucoup trop de couches dans ce système de santé-là. On en a juste rajouté une avec Santé Québec. Vous êtes intéressé par les déplacements interrives parce que vous êtes jamais ces ponts à chaque matin puis la fin de semaine. Bien, dites-vous qu'on va parler avec Gabriel Arcteau, sociologue, chercheur et spécialiste en démographie et en natalité. On va challenger la fameuse statistique émise vendredi dernier de diminution de 4,8% des déplacements interrives parce que vous, à la maison, vous au travail, vous sur la route, vous constatez pas ça comme nous. Donc, c'est ce qu'on va faire avec Gabriel Arthaud. Retour de la pause à l'émission On en jase sur Boulevard 101.
Le midi. On en jase à Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Jusqu'à 14h, on en jase. Par la suite, de 14 à 18, c'est le retour de Gravel avec Denis Véro et Audrey. 18h, Marceau du soir et ce soir, soyez à l'écoute. Pour 5 semaines à compter de 19h les lundis, c'est le nouveau podcast original de Boulevard 102.1. Les grands événements de Québec. Ça va se passer tous les lundis 19h. C'est un podcast qui est consacré aux événements qui ont marqué l'histoire de la ville de Québec. Pour chaque épisode, on revisite un moment clé avec des témoins et des acteurs de première ligne afin de comprendre ce qui s'est passé, ce que la ville a appris et comment ces événements résonnent encore aujourd'hui. Et ce soir, dès 19h, c'est la diffusion du premier épisode « Attentat de la mosquée, partie 1 » avec Denis Gravel et Jean-François Racine, journaliste au Journal de Québec qui a couvert l'événement. Un épisode consacré à l'attentat du Centre culturel islamique de Québec, raconté avec sensibilité par un journaliste qui l'a couvert de près, un regard humain, respectueux, essentiel sur l'un des événements les plus marquants de l'histoire. Et ces podcasts sont une présentation de Climatisation Paquette pour la vente de produits Move Air, la marque la plus fiable selon Protégez-vous, installée par une équipe de techniciens d'expérience. C'est climatisationpaquette.com. Vraiment, soyez à l'écoute. Et demain, dans l'émission d'En jase, Denis va venir nous parler justement de cet épisode et des 4 épisodes suivants qui vont demeurer par la suite. On s'en va immédiatement le rejoindre via la plateforme Zoom. C'est Gabriel Arthaud, sociologue, chercheur et spécialiste en natalité, qui est avec nous. On va parler justement de cette étude, cette enquête origine-destination qui nous dit qu'il y a moins de monde qui traverse les deux rives. Mais pourtant, Crème Mathias, toi, t'habitais sur la rive sud. Hey, t'es pogné ces ponts. Les gens nous écrivent le matin, on a pogné ces ponts. Encore un matin, 9h45. Le pont était au rouge sur la carte interactive de la ville. Voyons, où c'est qu'ils prennent ces chiffres-là?
Moi, je l'ai dit direct en partant là, vendredi dernier, quand cette étude-là est sortie. Je trouvais ça un peu ironique là, parce que le monde utilisait ça comme « Ah, il n'y a pas besoin de troisième lien. » Les déplacements baissent. Qui baissent ou non là, au cours des dernières années, ça reste qu'il y a un problème. Là,
ben oui,
le monde qui traverse ce pont... chaque matin, qui reviennent chaque soir, là, le trafic le soir, tu veux revenir de Québec, des fois, ça te prend une heure et demie pour un trajet qui en prend 30.
Énormément. T'as énormément raison, mon Mathias, et c'est pour ça qu'on parle avec Gabriel Arthaud. Gabriel, comment vas-tu?
Ça va bien, vous autres, les gars?
Ça va super bien, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Gabriel. Bon, Gabriel, l'étude disait qu'il y a une baisse de 4,8% des passages inter-rives entre 2018 et 2025. Est-ce que c'est réel ou non?
Ben, c'est ce que les chiffres disent, fait qu'après ça, moi, on croit les chiffres,
Parfait.
Ça, c'est
mais
la base.
Ça se peut-tu qu'il y ait plus de déplacements dans une certaine période? Parce que 2018-2025, c'est quand même assez large.
Ouais. Puis là, c'est ce qu'il faut comprendre quand on regarde ces chiffres-là, c'est que tu sais, c'est des moyennes. Ça, ça veut pas nécessairement dire que c'est des... le comportement n'est pas nécessairement apprécié. Parce que je veux dire par là, c'est où est-ce que les gens traversent? T'sais? Parce que une des choses que nomme l'étude aussi, puis quand tu vas regarder dans les chiffres, c'est que les gens prennent plus, par exemple, le pont Pierre-Laporte que le pont de Québec.
En effet.
Si tu as moins de passages en moyenne, mais qui sont tous concentrés en même place, ça va quand même te faire du trafic. C'est le principe du goulot d'entanglement. Hein? Tu mets tout le monde en même place, ben à la fin de la journée, c'est comme le film 300, là. Si tu te rends tout à la même place, ben à la fin de la journée, tu as juste besoin de 300 personnes pour arrêter les gens, ben c'est le même principe pour le trafic. Si tout le monde va à la même place, ben ça va finir par tout aller vers le goulot d'entraînement.
Donc, cette particularité-là est importante de dire oui, il y a une baisse de 4,8%, mais compte tenu que cette baisse-là est attribuable au pont de Québec, le pont Pierre-Laporte continue d'être surchargé. Et en plus, le pont Pierre-Laporte est le seul qui peut accueillir le transport lourd.
C'est un des enjeux qu'on nomme depuis quelques mois, là, dont on parle la fameuse sécurité de transport là, avec la ministre Guilbeault. La question, c'est dans ce cas-là, c'est pourquoi est-ce que ces changements-là ont lieu? Une des hypothèses qu'on a actuellement, c'est principalement le fait que dans le télétravail qu'il y a eu après la pandémie, on se rappellera, il y a eu une recrudescence du trafic à ce moment-là. Fait que ça veut dire que de 2018 à 2025, le portrait a quand même changé. C'est pas parce que la tendance a diminué en tout que ça veut nécessairement dire que de 2022, par exemple, à 2025, ça n'a pas réaugmenté.
Oui, c'est ça que j'allais dire. Parce que là, maintenant que les gens sont de retour plus au travail depuis la fin de la pandémie, et là, avec les gouvernements qui disent hey, wow, minute, là, c'est 3 jours au bureau, c'est 4 jours au bureau, les grandes banques font la même chose, les grandes organisations. Veut pas, le trafic va être voué à augmenter à compter de maintenant. Là.
Exactement. Puis aussi, une des choses qu'on sait avec le télétravail en mode hybride, c'est que les gens choisissent à peu près tous les mêmes jours, à savoir lequel des moments hybrides ils vont
T'as
choisir.
Tellement raison. Lundi, vendredi, puis là, t'es, ce matin, il faisait exception là, avec le pompier à la porte, mais lundi, vendredi, hein, c'est plus tranquille. Mardi, mercredi, jeudi, c'est l'enfer, la congestion.
C'est exactement ça. Fait que ça veut dire que techniquement, mettons, si tu as une moyenne sur une semaine, si ça se concentre sur 3 jours, tu peux avoir le même nombre de véhicules qui traversent le pont sur une semaine, mais vu qu'il y en a moins le lundi puis le vendredi, c'est dans le fond une plus grande concentration. Fait que tu as plus de trafic du mardi au jeudi, même si techniquement, c'est la même moyenne.
Puis, mettons, là, parce que là, il y a beaucoup de personnes qui utilisent ça, comme j'ai dit, comme excuse à dire, hey, les déplacements baissent, pourquoi on dépenserait de l'argent dans un troisième lien? C'est-tu complètement fou de dire, hey, quand même, là, de un, il y a le télétravail, oui, qui peut l'expliquer. De deux, d'ici 2040, la région métropolitaine de Québec va avoir 1 million d'habitants selon les projections. C'est-tu complètement fou de dire qu'avec 1 million d'habitants en 2040, faut avoir un peu de vision puis se dire, à ce moment-là, si on n'a pas un nouveau pont qui se construit, si on n'a pas un troisième lien qui se construit, ça se peut qu'on soit un peu dans la marde.
Les arguments des experts sont assez unanimes sur le sujet. En fait, j'en ai jamais vu quelqu'un qui dit le contraire là, en urbanisme, c'est que la chose qui ne changera pas, peu importe qu'on rajoute un troisième lien ou non, c'est le goulot d'étranglement, justement. Parce qu'à la fin de la journée, tout le monde va aller vers les mêmes endroits, c'est-à-dire souvent le centre-ville ou vers comme Sainte-Foy, là, où justement, il y a le gouvernement, il y a les grosses compagnies d'assurance qui sont présentes. Fait que peu importe à quel point tu élargis ton entrée de ton entonnoir, ben, si tout le monde va à la même place, ça ne changera pas grand-chose pour ce qui est du trafic, parce qu'il n'y aura pas plus de place pour accueillir les chars. Fait que, ce qu'on dit souvent en trafic, c'est que la chose la plus importante, c'est de réduire le nombre d'espaces que chaque personne prend. Fait que quand les gens disent que, par exemple, le tramway ou le transport en commun, ça aide, la vraie raison pour laquelle ça aide, c'est juste que si je mets 70 personnes dans 3 mètres carrés, c'est plus efficace qu'une personne par char. Fait que le but, c'est vraiment plus d'optimiser la quantité de place que chaque personne prend que d'optimiser la quantité d'endroits d'où les gens peuvent arriver. Fait que c'est un peu ça l'argument contre le troisième lien.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on ben, ne pourra pas optimiser cette place-là parce que la ville va rester la ville. On ne peut pas vraiment agrandir Québec une fois que tu es dedans, mais on peut s'assurer qu'une fois que tu es dans Québec, tu prends moins de place. Mmh.
Par contre, Gabriel, puis je réfléchis à voix haute avec toi, ouais. Si le transport en commun est justement a une efficacité pour réduire le trafic. Le tramway ne traversera pas les ponts. Fait que pour l'inter-rive, il faudrait développer du transport en commun, ce qu'on fait pas encore.
Ben, puis ça, c'est la partie un peu que... Le but, c'est pas nécessairement de s'assurer que le tramway traverse la rive, mais c'est que toi, une fois que tu traverses la rive, tu arrives à Québec, ben qu'à Québec, les gens prennent moins d'espace. Fait que même s'il n'y a pas de transport inter-rive pour le tramway, une fois que toi t'arrives, ces gens-là sont plus compactés, fait que t'as plus d'espace pour ton char. Mmh. C'est une des choses qui est bizarre, mais la meilleure manière d'aider les gens en voiture, c'est de s'assurer qu'il y a plus de transport en commun, parce que ça va leur laisser plus de place pour rouler.
En effet, je suis très, très, très d'accord avec toi. Est-ce qu'on est assez efficace en transport en commun à l'heure actuelle? À Lévis, je crois pas. On a un projet de voie réservée. Ici, à Québec, on a le tramway, mais ça va être quand même seulement une phase 1. On n'est pas encore assez efficace pour espérer ce transfert de port modal-là.
Ben c'est sûr. Puis, on l'a vu, un des problèmes avec les guerres politiques là, de jeu des différents paliers de gouvernement qui négocient, c'est que le tramway, on aurait pu le commencer il y a 10 ans, puis on ne l'a pas fait. T'sais. Ça gosse parce que c'est un sujet politique, c'est un sujet d'élection, puis c'est correct que les gens votent sur ces sujets-là, c'est super important, mais souvent on va faire la petite politique où on ne donne pas la meilleure information possible pour s'assurer que peut-être que je vais peut-être me ramasser des votes pour la prochaine élection. Puis ça fait que ça donne des délais. Puis les gens sont frustrés, puis c'est normal. Hein? Ça n'a pas été une super belle expérience d'attendre, puis de voir les travaux commencer, puis de ne pas se rendre quelque part. T'sais.
On parle avec Gabriel Artaud, qui est chercheur spécialiste et spécialiste notamment en natalité. Gabriel, tu es spécialiste en natalité, démographie. Dis-moi donc, là, à terme, là, en 2040, là, parce qu'on parle du tramway pour 2040, on parle d'un troisième lien aussi. À terme, qu'est-ce que ça nous prendrait comme infrastructure pour dire avec notre million de personnes qu'on va avoir dans la région de la capitale nationale, on s'en tire et on ne sera pas pogné dans un trafic comme à Montréal?
Parce les choses qu'on a souvent besoin pour ces enjeux-là, c'est d'augmenter la densité de population, fait que s'assurer d'avoir la meilleure quantité d'espace pour habiter les gens. Fait que, on parle souvent de plus de logements, mais des logements à la bonne place, des logements aussi qui sont abordables, parce que je peux rajouter 25 000 logements, mais s'ils sont tous à 1 600 $ pour un 3,5, ben, quelle famille j'accueille, puis quelle famille avec quel revenu j'accueille.
Ouais, c'est ça, surtout avec l'inflation qu'on vit à l'heure actuelle en plus.
Exactement. Fait que le but, c'est de s'assurer d'avoir des politiques où on concentre les populations proches des endroits où ils travaillent aussi, parce que ça, c'est une chose importante aussi pour le transport. Si je peux rajouter 1 million d'endroits, mais si je dois faire 1 heure de route pour me rendre, ben je rajoute quand même au transport. Alors que si je peux me déplacer à pied, si je peux me déplacer puis ça me prend juste 5 à 10 minutes, ben je suis moins longtemps dans le réseau. Fait que ça, c'est vraiment ce qu'on veut. Fait qu'on veut le plus d'infrastructures, c'est-à-dire des logements qui sont proches de où les gens travaillent, qui sont donc abordables, souvent le centre-ville est difficilement abordable, puis un ensemble de réseaux structurants du genre le tramway, après ça peut être d'autres affaires, là, mais
ouais.
Qui s'assure que ce transport-là, quand tu n'es pas près de ton travail, ben, tu peux le faire de manière efficace, puis tu ne prends pas trop de place.
Les deux trucs. Ouais, la densification, par contre, puis je termine là-dessus, j'ai l'impression qu'on vit un peu le contresens, on veut densifier, mais c'est tellement cher en ville, mais on n'a pas le choix de densifier en ville.
Exactement. Puis ça, il y a un ensemble de règlements. Puis, tu sais, c'est un des enjeux de. C'est bien rare qu'à moins d'une bulle immobilière, là, que ça pète, que les prix vont descendre. Fait que, tu sais, ce que ça prend, c'est des gouvernements qui décident d'investir ou d'agir dans par exemple, le logement abordable ou ce genre de programme-là. Mais bon, ça c'est compliqué. Ça demande beaucoup d'argent. Ça demande une volonté politique assez grande.
En effet. Gabriel Artaud, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission On en jase et au plaisir de se reparler bientôt.
Avec plaisir.
Salut mon ami. C'était Gabriel Artaud qui est sociologue, spécialiste en démographie, chercheur, donc une personne très, très, très informée au fait. Alors, apprendre avec des bémols les statistiques qu'on a émises entre 2018 et 2025, la période de temps est trop élevée.
Oui, puis je pense aussi qu'il va falloir être réaliste à un moment donné, là, parce que là, Pompière Laporte, ça crée un entonnoir monstre. Puis je comprends parfaitement le principe qu'avec le tramway, il va y avoir moins d'autos sur les routes du côté de Québec. Donc, si tu traverses le pont plus rapidement, mais que tu es pris dans du trafic à Québec, ben ça sert absolument à rien d'avoir un lien supplémentaire, ça je le comprends. Mais on a des problèmes pour traverser d'une rive à l'autre actuellement. C'est bien beau le tramway à Québec, mais il va falloir un transport structurant qui traverse d'une rive à l'autre, et ça d'ici 2040. Si on commence à penser en 2040, à dire peut-être qu'il faudrait en avoir un, bien, il va déjà être trop tard. Pour faciliter ce fameux, ces transports-là interrives, pour moi, il faut deux choses. Un nouveau lien et un transport structurant qui traverse d'une rive à l'autre.
Oui, en effet, c'est le fameux réseau là, express de la capitale qui comprenait un troisième lien, un réseau de transport structurant qui était inséré à l'époque, qu'on doit tout simplement faire. Le Centre Bell a explosé samedi soir.
En territoire central, avec mal retourné au vent. Alors, il n'a pas cliché au disque. Voici Stavkovski. Il y a une ouverture. La passe est reçue.
Victoire du CH 5-2 sur les Leafs de Toronto. Rappel de Florian Xhaka. Il a eu une passe. Il a fait un combat. Deux buts pour Noah Dobson. Deux buts pour Josh Anderson. Le Canadien qui s'en va à l'étranger cette semaine avec trois matchs. Un à Utah mercredi. Vendredi, c'est contre les Golden Knights. Et samedi, contre l'Avalanche du Colorado. Mathias, moi, je pense que ça va être une semaine quand même assez difficile pour le Canadien. Mais c'est une victoire qui fait du bien.
Ben écoute, on peut surprendre. Là. Je veux dire, on était dans une mauvaise séquence, je pense qu'on va pas s'en cacher. Puis quand t'es dans une mauvaise séquence au hockey, puis je l'ai dit aussi la semaine dernière, quand t'es dans une mauvaise séquence avec une équipe de jeunes, avec une équipe de joueurs avec moins d'expérience, c'est toujours plus difficile de rebondir. Tu sais jamais vers qui te tourner pour dire « Hey, faut que tu en donnes plus. Tu veux-tu mettre cette responsabilité-là sur Suzuki? » Je veux dire, là, on a eu un bon match. On est sorti. Dobesch a bien gaudé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une bonne performance d'un de nos gardiens. On l'a eu. Fait que si on peut continuer dans cette mouvoir-là, ben on peut aller s'en chercher un, deux, peut-être les trois prochains matchs. On ne sait jamais. Mais une chose est sûre, c'est que le Canadien a rebondi puis il veut revenir. Là. Matheson puis Dobson, moi je le dis, là, mais depuis le début de l'année, pour moi, ce duo-là est exceptionnel. On a un premier duo de défenseurs exceptionnel, puis on peut en être fier.
Faut leur trouver un petit peu d'appui pour ne pas qu'ils jouent autant de minutes. Et j'ai regardé cette fin de semaine, David Ranbacker a très bien joué à Laval, donc je serais pas surpris de le voir arriver avec le CH après la période des fêtes. Chaud rapidement à la NFL, grosse surprise hier à Dallas. Touché spectaculaire de Dak Prescott. Il a plongé dans la zone des buts. Les Cowboys marquent 17 points sans réplique à Dallas pour surprendre les Eagles. 24-21. Dallas est toujours en vie à 5 victoires, 5 revers et un verdict nul. Parlant d'être toujours en vie, les Chiefs ont sauvé leur peau hier.
Need 7 for a first down.
Super early, but you got to be all over everything.
It's a blitz. Stepping up and heaving it, and Worthy makes the catch, and they're in field goal range.
Vous venez d'entendre le catch de Xavier Worthy en prolongation. Les Chiefs qui marquent 11 points sans réplique au quatrième quart et sauvent avec une victoire de 23-20 sur les Colts d'Indianapolis en prolongation. 6 victoires, 5 revers. Et je termine avec une petite mention basketball, les amis.
Looking for Ingram. Finds quickly the three. Big time bucket.
Septième victoire consécutive pour les Raptors de Toronto. Ça a bien été pour les Jays. Ça va très mal pour la saison des Leafs, mais surveillez au basketball les Raptors de Toronto. 12 victoires, 5 revers. C'est une distribution pratiquement parfaite de points sur le 5 partant. Hier, tout le monde a marqué au moins 12 points dans les 5 joueurs partants, ce qui fait en sorte que les Raptors de Toronto, qui ont commencé l'année à 1 victoire et 4 revers, sont maintenant à 12 victoires et 5 revers. Et ils pointent au deuxième rang de la section de l'Est. Donc, est-ce qu'au basketball, on aura une petite reprise de la saison 2019 ou est-ce que les Raptors vont vont imiter les Jays de Toronto et surprendre la planète entière du sport. Ça reste à suivre, je vais vous tenir informé. Ici à l'émission, on en jase.
Ce serait quand même fou, hein, les Raptors qui surprennent tout le monde, qui font un beau, beau chemin en série avec les Blue Jays. Puis pendant ce temps-là, Toronto, Maple Leaf, dans les bas-fonds de la NHL.
Ah ouais, ça va pas bien pour les Maple Leafs. Je crois pas qu'on a réussi à remplacer Mitch Marner avec le peu de profondeur qu'on a. On fait une courte pause et par la suite, on va parler avec Pierre Graff, qui est économiste de formation et surtout président du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Hey, on parle de tarifs, on parle de difficultés économiques, on parle que c'est dur pour les entreprises. Ben, les jeunes, eux autres, les jeunes, ils ont plein d'idées. Les jeunes foncent et les jeunes sont convaincus de s'en sortir. Ça va faire du bien de parler de notre jeunesse avec Pierre Graff immédiatement après cette courte pause à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. Il est précisément 13h43. Vous êtes toujours à l'antenne de Boulevard 101, l'émission On en jase. Le retour de Gravel suit dans quelques instants avec Denis Véro et Audrey. Je vous rappelle, après Marceau le soir, ce soir, c'est un podcast spécial pendant 5 semaines. Les grands événements de Québec avec Denis Gravel. C'est avec le journaliste Jean-François Racine, Journal de Québec, concernant l'attentat à la mosquée de Québec. Mathias, avant de terminer l'émission avec Pierre Graff, économiste de formation et président du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, qu'est-ce qu'on doit suivre dans l'actualité cet après-midi?
Je commence en vous rappelant le drame qui a eu lieu hier à Bellechasse, plus précisément à Saint-Vallier. Donc, c'est une fillette de 11 ans qui a perdu la vie après avoir été atteinte par balle, malheureusement. Donc, l'histoire, on n'en sait pas énormément. On ne sait pas encore beaucoup de détails, mais de ce qu'on sait pour l'instant, c'est que c'est elle et son frère de 15 ans qui étaient présents lors de l'événement, les parents qui étaient absents de la maison. C'est une arme qui appartenait à la famille, donc est-ce que c'est une arme qui était mal verrouillée? On n'en sait pas plus pour l'instant, mais une chose est sûre, c'est que la fillette et son frère plus âgé de 15 ans ont tous les deux été atteints par balle. Son frère qui est pour l'instant blessé, on ne craint pas pour sa vie, malheureusement la fillette qui a perdu la vie dans l'événement. On passe du côté politique provinciale, parce que ça brasse autant au Parti libéral que chez Québec solidaire au cours des derniers jours. Là, je commence avec le Parti libéral. Il y avait un groupe de militants qui voulaient forcer un vote de confiance. Dans le fond, ils voulaient forcer la tenue d'un conseil général extraordinaire durant lequel il y aurait eu un vote de confiance envers le chef Pablo Rodriguez. Donc, c'était l'objectif de ce groupe de militants-là. La raison surtout, c'est toute l'histoire avec les fameux brownies, la saga avec Marois Risky également.
Mais là, on s'est calmé, on rentre dans les rangs, si je ne me trompe pas.
Non, c'est ça. On s'est calmé, on rentre dans les rangs. Donc, finalement, il ne va pas avoir de vote de confiance pour Pablo Rodriguez. Mais une chose est sûre, c'est que ça témoigne que présentement, les rangs libéraux, eh bien, ils se fissurent peu à peu. Je passe du côté de Québec solidaire en parlant de rangs qui sont fissurés, en parlant de rangs qu'il y a des divergences. Eh bien, Vincent Marissal qui a été éjecté du Parti Québec solidaire en fin de semaine. En fait, il a été pris de court un peu là, de ce qu'on apprend. Il voulait quitter. Eh bien, les différents acteurs de la scène politique, notamment chez Québec solidaire, commencent à réagir. Et du côté du député et ancien collègue, justement, de Vincent Marissal, Alexandre Leduc, on commente son flirt avec le Parti québécois et son départ de Québec solidaire en disant que c'est contradictoire avec l'entièreté de la démarche que Vincent Marissal a eue au sein de Québec solidaire au cours des 7 dernières années.
Alors, dossier à suivre, évidemment. Tout le monde revient à l'Assemblée nationale demain, période des questions, demain après-midi. On est le bonheur d'accueillir en nom de Pierre Graff, économiste et président du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Monsieur Graff, comment allez-vous?
Très bien, bonjour.
Oh, attendez, j'ai pas ouvert le bon micro, vous pouvez y retourner.
Très bien, merci Jean-François.
Ça fait plaisir, je suis vraiment désolé. Monsieur Graff, je le disais d'entrée de jeu avant votre arrivée en onde, les jeunes entrepreneurs sont confiants en l'avenir?
Alors, effectivement, on a fait un sondage avec Léger. Et alors là, je précise bien qu'on vise exclusivement vraiment les jeunes entrepreneurs en démarrage dans les secteurs d'avenir. Donc, par exemple, les technologies financières, technologies médicales, données, intelligence artificielle. Et vraiment, avec ce coup de sonde, on a voulu vraiment, après une année extrêmement complexe, marquée par l'incertitude, avoir une idée un peu de la confiance de ces jeunes entrepreneurs-là, technologiques, innovants, pour les 12 prochains mois. Et c'est sans appel, et c'est une bonne nouvelle, ça fait du bien de le voir, 92% ont confiance dans la prochaine année, ce qui nous donne vraiment un motif d'espoir.
Ben oui, qu'est-ce qui explique leur niveau de confiance?
C'est une excellente question. On n'était pas nécessairement rassurés Et c'est d'ailleurs ce qui a fait qu'on a parti ce sondage avec Léger, avec notre partenaire Humania, justement. Je pense que le contexte s'est un peu calmé dernièrement. Je pense que les gens ont appris aussi à vivre avec l'incertitude. Et forcément, ben, parce qu'aussi on parle d'entreprises d'avenir, on voit que les perspectives demeurent et ça fait qu'on est relativement confiant. Il n'y avait pas trop d'enjeux aussi au niveau du financement, qui était une des questions qu'on posait. Alors oui, c'est des compagnies qui cherchent à lever de l'argent, par exemple. On sait que l'argent est le nerf de la guerre. Mais il y avait peut-être moins d'inquiétude aussi de ce côté-là, ce qui était quand même assez marquant.
Oui, justement, quand vous parlez de l'argent et le nerf de la guerre, il y a quand même dans le sondage, et là, vous me corrigez, je me trompe, 57 % des gens qui voient comme essentiel du financement externe. Financement externe, c'est-tu nécessairement des paliers de gouvernement ou ça peut être d'autres choses?
Ça peut être d'autres choses. Alors, on peut parler de capital de risque, on peut parler de prêts, on peut parler, oui, de subventions. Mais il y a aussi une statistique qui est très importante. On voit que beaucoup sont capables aussi de passer dans la prochaine année à travers leur propre cash flow, donc leur fonds de roulement actuel, ce qui évidemment est bon signe. Par contre, à l'inverse, il y avait près de 10 % qui disent que ce serait très, très dangereux pour eux s'ils ne recevaient pas de financement externe et donc ils pourraient même fermer, advenant le fait de ne pas lever d'argent au privé.
On va dire juste 10 %, mais est-ce que ça vous préoccupe? C'est quand même une entreprise sur 10 qui pourrait fermer?
Oui et non. Historiquement, il faut savoir que quand même, c'est à peu près la moitié des entreprises qui survivent après leurs 5 premières années. Donc, il y a un taux d'attrition naturel qui, malheureusement, arrive et c'est quelque chose avec lequel on doit vivre. C'est aussi ça, être en affaires. Mais c'est sûr qu'actuellement, dans le contexte, je le répète, c'est quand même vraiment une bonne nouvelle de voir cet élément. Après, il y a d'autres choses à surveiller dans le sondage. Mais pour l'instant, c'est assez positif. Puis, c'est ce qu'on veut partager parce qu'il n'y a pas eu juste des bonnes nouvelles dans les 12 derniers mois.
Est-ce que les jeunes entrepreneurs voient encore... voit des retombées positives du positionnement de nos deux paliers de gouvernement. T'sais, du côté du gouvernement fédéral, on veut justement miser sur les nouvelles technologies, l'armement, même principe pour le gouvernement provincial où on veut beaucoup ouvrir avec les centres de données. Est-ce que ça motive nos jeunes entrepreneurs?
C'est une question qui est complexe. Si on prend l'armement, par exemple, c'est vraiment un domaine dans lequel il y a beaucoup de barrières à l'entrée. Là. Avant qu'on voit probablement des jeunes pousses, des startups qui se lancent dans l'armement au Québec, là, il va peut-être y avoir quelques années. Mm-hmm. L'armement, c'est une industrie qui va profiter vraiment aux grandes entreprises qui sont bien établies actuellement. Si on va maintenant du côté des centres de données, les centres de données actuellement, le coût est absolument prohibitif pour rentrer pour un jeune entrepreneur, à moins qu'il ait déjà fait fortune avec une entreprise par le passé pour être capable de lever les capitaux pour monter un centre de données. Donc, ce qui va se passer, c'est plutôt par la bande. Est-ce que ça va permettre vraiment à l'écosystème qui tourne autour des centres de données, qui tourne autour du monde de la défense, de vraiment amener ce type de jeune entreprise? Puis ça, c'est le temps qui va nous le dire. Mais c'est sûr que pour l'instant, au Québec, on a la chance, on le voit, d'avoir des jeunes entreprises novatrices qui sont quand même dynamiques et ça vient évidemment contraster avec l'enjeu structurel qu'on a au niveau vraiment des vocations entrepreneuriales et du recul des gens qui partent en affaires par rapport à ce qu'on a connu historiquement au Québec.
Le reprenariat, j'ai beaucoup entendu parler de ça, qu'il y avait beaucoup de gens d'affaires qui malheureusement, la descendance ne suit pas, donc les enfants ne sont pas intéressés ou ont tout simplement pas les moyens de continuer. On en est où avec ça? Comment améliorer cette facette-là?
Alors, ça, c'est un des très gros enjeux qu'on a. Actuellement, selon certaines statistiques, on a 76 % des entreprises dans les 10 prochaines années au Canada au complet qui vont être à transférer. Donc, ils vont devoir changer de nom.
3 sur 4?
Voilà, exactement, 3 sur 4.
Là, on a une crainte de se faire avaler par les Américains?
Alors, il y a beaucoup d'enjeux par rapport à ça. Parce que si on regarde actuellement au Québec, historiquement, la majorité des entreprises sont familiales. Et on voit que... il y a de moins en moins peut-être de personnes au sein des familles qui veulent reprendre les entreprises. Parallèlement, parce qu'on a un manque de relève, c'est seulement 4 entreprises sur 10 qui ont un plan de relève pour celles qui vont être transférées. Donc là, il y a un immense problème. On n'a pas nécessairement identifié de relève. On ne sait pas nécessairement c'est lesquelles les entreprises qui sont à vendre. Ça, c'est un des plus gros problèmes qu'on a au Québec. Et oui, il y a un enjeu à la fois de fermeture, mais aussi d'achat par les Américains. Ce qui fait que dans ce temps-là, malheureusement, on risque de perdre des emplois. On risque de perdre aussi des profits qui vont quitter, qui vont aller au sud de la frontière et qui ne seront pas réinvestis dans l'économie. Donc, c'est, selon moi, un des enjeux les plus importants au niveau de l'économie québécoise et canadienne pour les 10 prochaines années.
Et comment une jeune chambre de commerce, justement, fait pour travailler là-dessus, le reprenariat?
Oui, écoutez, c'est vraiment une excellente question. Il y a 5 ans, lorsque je suis arrivé à l'emploi du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, on a créé une initiative qui s'appelle Mouvement Reprenariat. pour vraiment encourager les jeunes chambres, les gens dans les jeunes chambres de commerce à être sensibilisés à ce qu'est le repreneuriat, aux opportunités que ça a, les risques que ça a, le repreneuriat, à les outiller aussi. On a une cohorte qui s'appelle d'employés à repreneurs, parce que le plus grand bassin potentiel d'entrepreneurs, c'est les jeunes employés dans les entreprises qui pourraient les reprendre, faire du repreneuriat, ce qu'on appelle interne, et donc de leur donner des outils pour être capable justement de faire en sorte que s'ils décident un jour de devenir repreneur, de devenir entrepreneur, ils ne feront pas certaines erreurs qui pourraient mettre en péril la pérennité de l'entreprise en la reprenant. Donc voilà, on a essayé aussi les maillages, mais ça c'est extrêmement compliqué. Et vraiment, je lance un appel. J'espère qu'à la fois l'écosystème, tous les paliers de gouvernement, on travaillera ensemble pour réussir vraiment une vague de transferts, une vague de maillages qui permettront les transferts dans les prochaines années, parce que c'est vraiment l'avenir de notre économie qui se joue là.
Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer ce phénomène-là qu'on voit que dans ces entreprises familiales-là, les enfants ne sont pas attirés à reprendre la compagnie familiale, pas nécessairement de reprendre la compagnie des parents. Qu'est-ce qui explique ça chez les jeunes actuellement?
Si on regarde les statistiques, là, il y a peut-être un enjeu structurel qui est le fait qu'on ait perdu en 30 ans presque la moitié de nos entrepreneurs. Donc, il y a moins d'entrepreneurs. Donc, la part dans la population active des entrepreneurs a baissé de 5% à 2,3%. C'est évidemment dramatique parce que c'est eux qui créent de la valeur. Mais il faut savoir qu'aussi, les jeunes aussi ont accès par l'information, par leurs études aujourd'hui à d'autres carrières. Avant, ils étaient souvent attachés à la réalité familiale. Ce n'est plus le cas maintenant. Il ne faut pas oublier qu'aussi dans un marché du travail où il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande de main-d'œuvre, qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, la guerre des salaires qui a été déclenchée avec ça fait que les salaires, souvent, les entreprises sont tellement bons, tellement confortables, entre guillemets, que ça va être un désincitatif à reprendre l'entreprise ou à partir une entreprise. Donc là, on a quelques éléments qu'on pourrait citer qui vont probablement expliquer qu'il y a un désintérêt au sein des familles. Le problème, c'est qu'on a toujours la majorité des entreprises au Québec qui sont familiales.
Le régime fiscal imposé par le gouvernement fait-il en sorte qu'il y a moins d'entrepreneurs à l'heure actuelle?
Alors, en général, c'est prouvé que la réglementation et l'imposition sont quelque chose qui vont jouer négativement sur l'entrepreneuriat. J'ai eu le témoignage récemment d'une jeune repreneur en Beauce qui a dit qu'elle reprenait la compagnie familiale, justement, et elle a décidé d'arrêter le processus.
Parce que la bureaucratie...
Parce qu'il y avait trop de choses à remplir, trop de papiers à remplir, puis que ça l'a découragée. Donc ça, c'est sûr que ça joue. Mais plus généralement, si on parle juste de fiscalité, qu'on pense juste aux États-Unis, depuis le fameux One Big Beautiful Act que Trump a passé, qui a baissé le taux effectif d'imposition, c'est tout simplement moins intéressant pour les entreprises de faire affaire au Canada et au Québec que de faire affaire aux États-Unis. Puis on l'a vu avec les gros comme Stellantis, mais ça joue aussi potentiellement sur les plus petits. Moi, j'ai déjà des entrepreneurs, même très jeunes, qui ont à peu près la trentaine, qui ont déjà réussi, qui ont déjà des belles petites business, peut-être 10, 20 employés. Ils avaient le choix entre en ce moment réfléchir à agrandir leur usine au Québec ou à peut-être ouvrir, parce qu'ils font déjà affaire avec les États-Unis, une usine aux États-Unis ou un centre de distribution. Mais en ce moment, ils tendent vers la deuxième option, malheureusement.
Vers les États-Unis.
Et ça, c'est un problème parce que ça fait qu'on donne moins de jobs à leurs fournisseurs, on crée moins d'emplois, on réinvestit moins. Puis au final, c'est notre croissance qui en pâtit.
Pierre Graff est économiste et également président du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Monsieur Graff, merci pour votre participation à l'émission d'En Jase. Puis je pense qu'on va se refaire une jasette. C'était vraiment très, très, très intéressant.
Merci beaucoup, Jean-François.
Merci, Monsieur Graff. C'est très apprécié. C'est déjà tout pour nous à l'émission On en jase sur Boulevard 101. C'est le retour de Denis, de Gravel, devrais-je dire, qui suit avec Denis, Véro et Audrey. Nous, on se reparle demain à midi avec Pascal CV qui sera de retour. Mathias Turcotte, merci pour les deux derniers jours.
Yes, ça fait plaisir. J'ai eu du fun avec vous autres. Bonne journée tout le monde.
Excellent, on se reparle bientôt. Mathias, je suis certain que tu vas aller nous faire un bon reportage sur le terrain. Restez les nôtres, c'est le retour de Gravel qui suit à l'instant même. On en jase.